RBS
91.9. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Work Less Play More by La Chronique du Geek. Donc ce soir c'est Raphaël qui va déjà vous présenter cette émission hein, parce que Nishan n'est pas encore arrivé. On va l'attendre dans un instant, mais tout de suite on va se commencer la soirée avec un petit son, c'est Super Mario 64 parce que bien sûr aujourd'hui Mario Odyssey est sorti, on s'écoute ça tout de suite.
It's me, Mario.
Et voilà, on est de retour sur la radio RBS 91.9 pour Work Less Play More, donc by la chronique du geek. Donc Raphaël est présent ce soir, il y a Pierre à mes côtés. Pierre, comment ça va ?
Bonsoir, bien et toi ?
Ça va super, merci. Donc on attend toujours Nishan qui ne saurait tarder. Il est pas comme tout le monde ce soir, hein. Il a eu un peu de retard à cause des bouchons, avec notre prédécesseur aussi là, de l'émission juste avant, qui a eu un peu de mal aussi. Alors on va commencer par les news, hein. On va faire sans lui, hein. Tant pis pour lui, il va louper le plus important de l'émission. Mais Pierre, oui. Qu'est-ce que tu as à nous raconter ?
Alors j'ai plein de choses à raconter, mais je garde comme la news qui l'intéresse pour quand il sera là, parce que je sais qu'il va réagir et...
Tu vas parler de Street Fighter ?
Non.
Windjammers ?
Un autre jeu de combat, mais il va réagir. On va commencer avec, encore un autre jeu de combat, avec Injustice 2, Donc le jeu de combat avec les super-héros de DC, donc
DC
Batman,
Comics.
Superman, Wonder Man, etc. La version, donc Injustice 2, c'était sorti il y a à peu près un an sur PS4 et Xbox One.
C'est ça.
Donc le jeu qui avait eu un accueil plutôt sympa. De toute façon, le truc pour lequel... En fait, il y a deux types de gens qui jouent à Injustice. Il y a ceux qui jouent pour le solo parce que c'est une histoire intéressante, parce que en gros, c'est Superman qui a pété un câble après la mort de Lois Lane et qui fait un état totalitaire.
Spoiler,
sur toute
attention.
La Terre. Oui, mais c'est dans les 10 premières minutes du jeu, du premier, donc ça va. Et du coup, là, c'est Injustice 2, donc ça se passe quelques années après. C'était pas sorti sur PC, et là, il a été annoncé donc en début de semaine. Sur PC, enfin. On aurait dû avoir une bêta mercredi, mais ça a été repoussé à une date indéterminée, mais ça devrait arriver comme le jeu avant la fin d'année, donc.
Et je vais te couper 30 secondes oui. Parce qu'on a notre ami Nishan qui est arrivé dans les studios. Bonsoir Nishan, comment ça va?
En speed, mais tout va bien. C'est parti. L'émission Workless Playmore va pouvoir commencer. Non, elle a déjà commencé.
Bah oui,
merci d'avoir lancé l'émission sans moi.
Bah, on est là pour ça.
Ouais, ok, bon bah nickel. Bah écoute, continue Pierre sur, les, sur tes news.
Alors ensuite, une autre petite news, juste pour dire qu'en ce moment sur Steam, il y a des soldes pour Halloween. Alors c'est surtout sur des jeux qui ont un lien avec tout ce qui est l'horreur, etc. Mais donc, si vous voulez avoir des jeux dans ce domaine-là, il y a. Ensuite, autre petite news, c'est Rockstar qui a parlé donc de GTA V. Avec le DLC solo, parce que c'est un truc qui était attendu depuis la sortie de GTA V, excusez-moi, donc il y a 4 ans quand même, fin 2013. Tout le monde l'attendait, tout le monde se demandait est-ce qu'il y allait en avoir un, est-ce que... Finalement, on n'avait aucune information, et Rockstar a confirmé qu'il n'y en aurait jamais.
Ah bon?
Oui, alors ils ont dit il y a plusieurs raisons. Alors déjà, oui, mais le jeu, en fait, c'est 3 histoires en un, parce qu'on a 3 personnages, donc c'est comme si on avait fait 3 jeux directement. Du coup, et ensuite, donc, le jeu est assez complet pour eux, a priori, en solo, même s'il a été assez décevant pour pas mal de monde.
Ouais.
Ensuite, le fait que, bah, en fait, le multi a pris beaucoup de place dans GTA V, avec GTA Online qui est une vraie, qui a des mises à jour récurrentes et gratuites et qui, du coup, prend pas mal de place et du coup, pas mal de ressources. Et une des autres raisons qui prenait des ressources, c'était Red Dead Redemption 2, qui devrait sortir, du coup, courant 2018, normalement, pour le printemps. Et du coup, voilà, c'est pour ces raisons-là que Rockstar a dit qu'il n'y aurait pas de DLC solo pour GTA V, même si certains espéraient encore, mais 4 ans après, c'est un peu tard, quoi.
Ouais, ça fait quand même 4 ans qu'il tourne le jeu.
Fin 2013, ouais, sur PS3 et Xbox 360.
Je crois un des jeux les plus rentables, à mon avis.
Ah, mais complètement, parce que je le répète à chaque émission, mais c'est le seul jeu que tu trouves à peine en occasion. Oui. Il est toujours à 45€ en occasion. Oui.
Ouais, mais il a y fait quasiment 1 milliard de dollars en une semaine ou deux. Donc, il a explosé tous les records. Enfin, GTA 5, ça a été comme une sortie assez importante. Alors, ensuite, une autre news alors sur PUBG, donc Player Unknown Battleground. Je pense qu'à force, vous devez quand même le connaître. Donc, c'est le Battle Royale sur PC qui cartonne, qui a dépassé les 15 millions de ventes, etc. Il y a eu pas mal de news cette semaine autour du jeu. Déjà, on sait que du coup, le jeu devrait sortir en fin d'année sur PC, sur Xbox One, et qu'il y aura du coup une version boîte. Donc voilà, ça c'est... pour ceux qui veulent absolument
une version physique, c'est cool ça.
Oui, voilà. Enfin, en vrai, on s'en fiche un peu, mais bon, ça changera rien.
C'est quand même cool. Moi, j'aime bien avoir dans ma bibliothèque plein de boîtes comme ça.
Franchement, moi, ça me dérange pas.
Oui, ça prend de la place, et puis après, on n'a plus de place dans sa bibliothèque, alors que.
Bah, tu changes de bibliothèque.
Oui, bah, il faut avoir la place aussi pour.
Fin de la conversation.
Et par contre, ils ont enfin annoncé que la version des déplacements plus fluide, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer au-dessus de chaque barrière ou de pouvoir escalader certains murets, donc pas non plus 10 mètres, mais qui font à peu près 2 mètres de haut, on va enfin pouvoir les escalader, ce qui va changer pas mal de trucs. Du coup, on va pas forcément attendre le mec au contour d'un muret, mais il va peut-être passer par au-dessus pour essayer de nous avoir. Du coup, ça va changer pas mal de trucs dans le jeu.
Ouais.
Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, ça va arriver normalement dans la semaine sur les serveurs test. Et ça sera dans la grosse mise à jour de novembre qui devrait apporter normalement la nouvelle map aussi. Donc, qui se passera dans le désert avec une grosse zone urbaine qui va optimiser encore le jeu et donc qui va apporter ce nouveau système de déplacement et voir peut-être aussi des nouveaux véhicules. Alors ils ont annoncé un truc qui était assez obvious, enfin tout le monde s'en doutait, il n'y aura pas de solo pour PlayerUnknown, enfin pour
ouais,
PUBG,
bon,
enfin
pas assez logique en même temps.
On s'en fiche, on veut pas d'un
toute
solo.
La hype elle est sur
le multi, ouais, ça s'arrête pas, c'est ça qui est assez fou. Et il y a aussi une anecdote assez drôle autour de la bâtée. La bâtée en fait, c'est une espèce de poêle dans le jeu, donc c'est une arme de corps à corps qui en fait, il y a tout un délire autour de la bâtée parce qu'en fait, elle a une physique, c'est-à-dire que Une machette, elle va pas arrêter les balles, même si quand on a une arme de corps à corps, en fait, elle se met dans notre dos au niveau du bassin, et la machette ne va pas arrêter les balles. Par contre, la batée, si. Et le truc, c'est que du coup, ouais. Tout le monde veut une batée. Parce que bah du coup, oui, ça protège son cul, ça arrête des balles, et c'est juste la vie. Et en fait, il y a un des développeurs qui a annoncé récemment que, en fait, à la base, elle avait pas de physique, et c'est ils ont fait avec un autre développeur, juste pour rire, la petite blague, de mettre une physique à la batée, pour s'envoyer des grenades, en fait. Et finalement, ils l'ont gardée. Et en fait, ils sont partis le soir, ils sont revenus le matin, et en fait, c'était dans la mise à jour qui a été déployée pour tout le monde.
Ah, finalement.
Et du coup, ils n'y ont pas touché parce que tout le monde a kiffé ça.
Ouais, tu m'étonnes.
Et du coup, voilà le mythe de la batée. Maintenant, on sait pourquoi on peut renvoyer des balles et arrêter les balles.
Mais est-ce que tu as un truc spécial à faire, un mouvement spécial?
Non,
ou t'as juste à la.
En fait, elle est dans le dos, du coup, ça s'arrête les balles dans le dos. Mais par contre, si tu l'as en main et que tu donnes par exemple un coup, elle va passer devant ta tête. Si c'est au moment où la balle va arriver dans ta tête, ben tu l'arrêtes. Bon, ça c'est impossible, enfin, je veux dire, c'est fou.
Ouais,
c'est juste de la chance en fait.
Ouais, c'est
mais
ça.
Dans le dos, par contre, ça peut arrêter un mec qui tire dans ton dos, ça peut arrêter quelques balles, ce qui peut te sauver la vie.
Oui,
si
ouais,
ça m'est déjà arrivé. Et c'est quand même vachement intéressant. Et du coup, la batée, quand on tombe sur la sainte batée, on est quand même très content. Et dernière news pour moi, et non pas des moindres, Dragon Ball FighterZ. Du coup, il y a eu quand même pas mal de news ces derniers temps. Et je sais.
On t'attendait pour ça.
Justement,
hein.
Je t'attendais pour ça. Je finis par ce qui est polémique, parce qu'il y a deux trucs à dire avant, quand même, qui sont un peu moins polémiques. On a eu donc deux nouveaux personnages qui ont été annoncés cette semaine, donc Nappa et Ginyu.
Oui.
Donc Nappa, le duo de Raditz, de Vegeta quand il arrive sur Terre. Et on attendait absolument pas. Enfin, c'est vraiment le personnage que personne n'attend. À la limite, Tenshinhan et Yamcha, à la limite, mais il n'a pas. Personne ne l'attendait. Franchement, c'est.
Alors, drôle.
Mais le truc, c'est que du coup, on sait qu'il sera. Il n'aura pas beaucoup d'énergie, il sera très lent, mais par contre, il sera très fort physiquement. Dans ses coups spéciaux, il aura aussi les Saibaman, donc c'est ces petits êtres verts qui tuent Yamcha et qui le mettent en PLS. Ils vont pouvoir faire des assists, du coup, pour pouvoir bloquer un peu les adversaires. Et on a aussi donc Ginyu, donc du commando Ginyu, donc cet alien vert avec ses cornes. Il va pouvoir faire aussi appel au commando Ginyu pour différentes attaques.
Ouais.
Et son spécial, ça va être échanger son corps, évidemment. C'était sa technique secrète dans l'anime et dans le manga. Et du coup, là, tout va être échangé. C'est-à-dire la vie et du coup, les coups spéciaux aussi. Du coup, ça peut être un vrai game changer dans le sens où t'as plus de vie, tu changes ça, le mec, tu le baises, quoi. Enfin, c'est juste, tu le prends perso full vie. Par contre, l'attaque sera compliquée à mettre en place. Elle sera lente, du coup, faudra bien la placer.
Changer, ouais.
Parce que du coup, faut pas non plus que ça soit trop facile, mais c'est vachement intéressant, je trouve, en termes de game design, quoi. Enfin, ça peut totalement changer un match.
Ça va être le gros avantage, justement, parce qu'on a pour l'instant, hein,
oui.
Tous les caractères sont vraiment différents.
Ouais.
Au niveau du gameplay, au niveau de pas mal de choses, donc ça, c'est carrément cool. Et de toute façon, vous le savez tous, hein, j'ai vraiment hâte d'arriver au 26 janvier. Ça y est, donc la date a été posée.
Merci de spoiler une partie de ma
news. Ah, pardon. Oh, qu'est-ce que tu voulais dire?
Sinon, on va parler du coup maintenant de ce qui fâche. Du coup, donc, alors la date du 26 janvier, ce qui est intéressant juste, c'est que ça sort en Europe et en Occident avant le Japon. Ça sortira le 1er février au Japon. Du coup, on l'aura avant le Japon. Ok, pourquoi pas. Ils ont aussi annoncé cette.
Sauf qu'ils sont quand même toujours plus forts que nous.
Oui, oui, forcément.
Je t'entraînerai depuis une semaine, ils vont venir, enfin, clash, t'es niqué.
C'est une semaine d'avance, ça sert à rien, nous, on a le talent. Et du coup, il y aura aussi lundi, on aura des infos sur deux nouveaux personnages pour le jeu, du coup. Du coup, on ne sait pas encore ce que c'est, il n'y a aucune info, rien qui a leaké dessus. Aussi le solo, je vous l'ai fait dire, il y aura des choix dedans en fait, a priori. Il y aura du coup plusieurs fins, il y aura des arcs, on pourra avoir des embranchements différents, ce qui est vachement intéressant, ce qui je crois n'avait jamais été fait par un jeu Arc System Works.
Non, carrément.
Donc ouais, plus une mise en avant du solo qui a priori servira aussi de tutoriel justement parce que on va faire le solo en même temps, on va apprendre un petit peu à jouer les différents persos, ce qui peut être cool pour les gens comme moi qui sont nuls en jeu de combat.
Par contre, dans toutes les fins, Tenshinhan, Yamcha et Krillin meurent.
Yamcha, c'est sûr, en tout cas. Et Krillin, il meurt et il ressuscite.
Oui,
et
c'est
Yamcha...
ça. Krillin, c'est le seul qui vont ressusciter à chaque fois. Hein. Je sais pas pourquoi.
Et Yamcha, il va être son Kikuo, il sera à moitié mort et il va se faire ramasser. On va lui donner un Shenzhou. Il va se dire, c'est bon, je le sers à rien, en fait.
Il est mort. Alors, je me
demande. Ah, mais justement, c'est à ça que Krillin sert. Il lui donne la vie à nouveau pour ramener les haricots magiques.
Ouais, c'est ça.
Mais, techniquement, Krillin est mort beaucoup plus de fois qu'Yamcha.
Ouais, non, mais Krillin, il meurt à chaque fois. C'est triste.
Yamcha, il est mort quoi? Une fois?
Il est pas mort en plus, non, contre le
docteur. En fait,
Gero.
Je pense plus, c'est la façon dont il meurt.
Ouais, non, c'est
à chaque fois, il se prend une patate. Ouais,
c'est ça, et contre.
Il a plus d'yeux, et hop, il est mort.
Non, c'est contre le CB-Man où le CB-Man se fait exploser.
Ouais,
il finit en PLS dans un cratère, c'est tellement
triste. Et il meurt pas?
Si, bah justement.
Ah, si, voilà, donc il meurt qu'une fois. Oui.
C'est ça. Ah, parce que contre le docteur Gero, contre le cyborg, il ne meurt pas.
Non.
Il se fait traverser, mais ça va.
Mais ouais, ça va, tout va bien.
Il tient le coup. Et après, il arrête de se battre parce qu'il a quand même compris qu'il était un peu...
Ça servait à rien.
Voilà. Ensuite, on va parler de la partie rigolote. Le truc, quand tout le monde a vu ça cette semaine, tout le monde a grincé les dents et j'ai même pas osé de faire de news parce que ça m'énervait trop, en fait.
Ah, toi aussi, ça m'énervait. Bon.
Alors, ils ont annoncé deux choses. Un season pass, qui va coûter 35€.
Ouais.
Ça fait mal au cul. Coucou Street Fighter 5. Merci Bandai Namco de profiter du fait qu'on va tous le prendre parce qu'on est tous des gros pigeons Dragon Ball. Hein. Enfin, faut pas se mentir.
Ouais.
Et que
au moins 4 ce soir ici.
C'est clair.
Et que le season pass n'est pas compris dans le collector. Mais ça arrive de plus en plus. On a l'habitude. Hein. Voilà. Paye ta version 150 balles et remets 35€ s'il te plaît pour avoir 8 persos.
Ouais.
Donc on a aucune info sur ces persos. De toute façon, ils ont pas encore dévoilé le roster qu'on aurait dans le jeu de base. Donc on n'aura aucune info là-dessus. Ce sera peut-être plus des persos de
Dragon Ball
Super. Ben, peut-être Monsieur Satan ou peut-être des persos de Dragon Ball Super parce que pour l'instant il n'y en a pas eu énormément. Bah si, c'est intéressant. Si le gameplay est cool. Enfin, franchement, moi je suis prêt à prendre n'importe quel perso de Dragon Ball Super tant que le gameplay est cool. Enfin, de Dragon Ball FighterZ, ouais. Tant que le gameplay est cool. Du coup, 35 persos. Après, ils ont 6.
Non, 35 euros.
35 euros. Oui, ils n'ont pas 35 persos, ça serait trop. Et pour 8 euros, ça serait rigolo. Mais
ouais.
Du coup, ils ont. Il y aura du coup une version aussi qui va coûter, je crois, à peu près 95€. Du coup, le prix du jeu plus le season pass.
Mm.
Et ensuite, on a la version à 115€. Et qui, sachant que les deux versions là sont uniquement dématérialisées.
Mm.
Merci. Et du coup, on aura les 8 personnages, donc avec le season pass. On aura des nouvelles voix pour les commentateurs. Pour le commentateur, du coup, comme dans un Guilty Gear, a priori. En fait, c'est les voix des personnages qui vont annoncer le début du combat, etc. Pourquoi pas, mais c'est un peu OZEF. Mais le truc qui fait craquer dans cette version, c'est quand même 11 bandes-son de l'animé original.
Ouais, ça c'est bien.
Et en fait, le truc, c'est que c'est au TGS, la productrice a dit oui, mais on travaille pour essayer de mettre les chansons dans le jeu, etc. Ouais, en gros, ils savaient déjà ils allaient faire douiller pour les musiques parce qu'ils ont dû payer des droits, je pense, et tant qu'à faire, autant rentabiliser ça bien salement avec les gens qui vont payer une version à 115 balles. Et du coup, non, mais il y aura des musiques de générique, il y a des musiques qui sont ultra classiques pour Dragon Ball, et du coup. Ça va un peu.
Et dans la version à 115 balles, donc t'as pas le DLC. Hein.
Si, t'as le season pass
quand même.
Oui, t'as tout. Merci. sauf le contenu du collector, c'est-à-dire figurines, le steelbook, etc. Une version dématérialisée, mais qui a tout le contenu du jeu.
Ok, d'accord.
C'est pas une version démat,
si. C'est qu'en démat, y a pas de version physique pour ça.
Ah ouais, la disquette.
Ouais, c'est ça. C'est comme pour la version à 95 balles, y a pas de version boîte à 95 balles, c'est juste une version démat.
C'est ça, ouais. Donc t'achètes le jeu et puis t'achètes ton DLC après, quoi.
C'est ça, et ça te coûtera plus cher parce qu'il va revenir 70€ tout seul.
Il n'y aura pas un gros.
De toute façon, sinon, vous faites ce que vous attendez une semaine, vous allez dans un bac d'occasion parce que tout le monde va le revendre. Parce que il y en a plein qui vont le revendre parce qu'ils ne vont pas accrocher finalement.
Non, on ne parle pas d'un jeu Switch là.
Non, mais je pense.
Non, justement, ça n'arrive pas.
Non, je pense que Dragon Ball FighterZ, les gens vont le garder juste pour le fait de pouvoir jouer. Parce
que, à mon
avis, il y aura du jeu en local.
Oui.
Et pour ça, ça va s'adresser à un public tellement plus large que Street Fighter ou Guilty Gear ou autre. Tout le monde va le garder au final.
Clairement. Oui. Aujourd'hui, avec Arxis, donc moi qui suis un très très gros joueur de Guilty, parce que j'adore ce jeu, la communauté Guilty elle est très très compliquée parce que c'est techniquement un des jeux les plus techniques qui existent sur le marché du versus fighting. Aujourd'hui, sortir un jeu sous Arxis, on savait très bien que les gens allaient vraiment adorer le jeu parce que voilà, ça reste du Arxis, mais en plus, on te camoufle ça avec Dragon Ball Z, donc pour toucher vraiment un large public.
Oui.
C'est parfait.
Avec une technique parfaite. Enfin, je veux dire, c'est juste.
Ouais, c'est
trop
ça.
Beau, quoi.
Pour preuve, aujourd'hui, Capcom vient de te lancer un Street Fighter V full arcade edition
avec.
Voilà, avec tout dedans, juste pour contrer un peu la sortie de Dragon Ball. Il y a un moment, les mecs de chez Capcom.
C'est bien, c'est que ça sort en même temps, quasiment à 10 jours près.
Ouais, c'est
ça. Le 16, t'as Street Fighter V arcade et le 26, t'as Dragon Ball. Mais bon, qui va prendre Street 5 ?
Ben,
ça sera intéressant de regarder les chiffres des deux jeux.
Ouais,
ils vont pas en vendre beaucoup.
Hein. Ah non.
Non, mais c'est clair. Nico d'ailleurs ce soir qui est avec nous, l'invité qui a juste envoyé un petit message. Salut, j'aimerais bien venir à la chronique du geek, voir Class Playmore. Ok, pourquoi pas.
Donc si vous voulez faire pareil, vous contactez Nisha, ça peut être privé.
Exactement. Non, mais qui est un très gros joueur. Enfin, on a déjà beaucoup joué en versus fighting, lui et moi.
Beaucoup.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il est présent. dans l'émission de ce soir. Donc en plus, ça t'intéresse parce qu'on parle justement de Dragon Ball Z. Donc toi, comment ça va se passer? Tu vas le prendre? Bah, je pense que oui.
Bah, évidemment, comme tout le monde. Maintenant, moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'ils vont quand même réussir, parce que c'est là où ils sont forts Arc System, c'est de faire à chaque fois des persos qui sont bien différents au niveau
gameplay.
Ouais,
c'est ça, c'est ça.
Et avec un jeu tiré d'un manga où un peu tous les persos font les mêmes attaques, ils vont faire des gameplays différents avec les persos. Donc déjà là, c'est fort.
Alors, en ayant testé justement le jeu, je te confirme que le gameplay de chaque perso est vraiment totalement différent. C'est dingue. Hein.
Non, mais déjà ça, c'est un tour de force. Et de toute façon, le jeu est magnifique. Je veux dire, c'est le jeu que tous les mecs de notre génération, on en rêvait quand on était gamin, qu'on se tapait les jeux tout pourris sur Super NES.
Mais ouais, Super NES, exactement, et le Dragon Ball, j'ai l'impression que c'est la version de Super NES, mais de nos jours, quoi.
Oui. Ouais, t'as l'impression de voir l'animé, quoi.
T'es gentil avec les versions Super NES.
Encore, ouais, mais à l'époque, on trouvait
c'était
ça bien.
Génial.
Oui, non, mais on trouvait ça bien. On avait 10 piges, tu vois.
Ouais, je veux dire,
t'avais les gros rejoues,
tu tiens 10 minutes et tu fais, ah bon, merci.
C'est le moment où tu sors de l'écran et du coup, t'as l'écran splitté comme ça. Et tu dis, merde, il est où, putain.
Attends, mais non, quand tu fais une, je sais pas, tu fais un Big Bang Attack ou un Final Flash ou un Kamea avec le mec, il arrive à le contrer avec une main. Mais ça, mais déjà à l'époque, tu devenais dingue.
On était comme des fous, on défonçait les manettes.
Alors là, franchement, je pense que celui-là, il va vraiment, vraiment nous faire mal.
Pour rappel, ce sera sur quelle console, quel support, surtout
PS4,
hein.
PC et Xbox One. Ouais. Sachant que, a priori, la bêta ouverte qui arrivera normalement fin d'année, voire début 2000.
Une nouvelle bêta qui est prévue.
Ouverte. Alors, elle sera en avance pour ceux qui ont une version digitale, pas la version boîte. Voilà, merci encore la douille. Et a priori que sur console, donc merci la grosse douille, parce que j'aimerais quand même le tester sur mon PC avant, quoi. Enfin, juste en fait pour y jouer, j'ai juste envie d'y jouer, quoi.
Tu viendras à la maison.
Ouais, non mais c'est ça. Non mais je ce côté.
Il y avait pas aussi, il n'était pas question au moment sur Switch ou.
Ils y réfléchissent pour
l'instant. Sur Switch, ils vont sortir justement Super Butoden 2. Non. Parce que la console n'arrive qu'à émuler.
Non,
on va en reparler.
L'appel du destin.
La version Switch, ils y réfléchissent, ils savaient pas encore. Ils ont dit s'il y a suffisamment de monde, il y a suffisamment de monde. Ouais, mais pour l'instant, ils se concentrent sur les versions console, donc PS4.
Rien d'officiel, quoi, pour la suite.
PS4, Xbox One, PS4. Non, pour l'instant, rien d'officiel.
Ok.
Techniquement, ça devrait tourner, hein, je pense.
Oui, non, mais c'est Unreal 4, du coup, ça tourne sur la Switch. Et le jeu est pas techniquement ouf, même si ils ont dévoilé la config recommandée pour PC. C'est juste un truc, mais abusé. Ils ont demandé 16 Go de RAM, un i7,
Non, mais attention, et franchement, le jeu est très très beau. Moi, j'ai pris une claque, hein.
Oui, non, mais c'est très très beau. Ça tourne sur une PS4 et une Xbox One en 1080p 60 FPS. Ça va tourner sur un Grippin.
Ouais.
Donc non, la config qu'ils ont balancée, c'était juste abusé. mais non, voilà.
Par contre, sur Switch, à mon avis,
ça sera un peu moins beau, mais c'est pas très grave. Enfin, en vrai.
Non, mais allez, ne te rachète pas. Enfin, espérez pas trouver une solution. Il y a pas de solution. Le jeu va être moche. Mais ils ne sortiront pas. Ce qui est dommage, parce que franchement, le concept de pouvoir même jouer online via ta tablette, enfin via ta Switch, de n'importe où, putain, mais là.
Moi, j'achète. Hein.
Attends, il sort Skyrim sur Switch. S'ils arrivent à faire tourner Skyrim.
Attends. Faut tout voir.
Il y a Doom et Wolfenstein qui tournent sur Switch, donc ça tourne.
Mais Doom, il a 5 ans le jeu.
Il y a un Zelda.
Non, Doom 2016.
Ouais, Doom 2016.
Mais on est
pour te chauffer. Et Wolfenstein,
on parle quand même d'un jeu 2D.
Oui.
Et ouais, mais attention, hein, ça bouffe énormément.
Non.
Tu prends même Guilty Gear sur PC.
Il tourne sur rien du tout. Vraiment. En plus, il a liés à mort.
Après, j'ai pas une config de dingue, mais j'ai un 3Go2 en i5.
Un PC portable.
Non.
Et ça tournait pas dessus.
Bon, après, je gâche pas que j'ai pas de carte graphique.
Donc voilà. Ouais. Non, mais merci Michel.
Voilà. Mais bon.
Hey, j'ai essayé de jouer sur mon Grippin, ça marchait pas.
Alors j'ai pas d'écran, j'ai pas compris.
Je voulais avoir la même configuration que la Switch, j'ai réussi parce que voilà. pas de carte graphique. Enfin bon. Bah écoute, ouais, on a vraiment hâte de tester.
J'ai pas pu toucher la première, celle-là, je vais y toucher. Je sais que je vais me faire marave. Quand je vais jouer contre toi ou Théo, je sais que je vais pas toucher le sol parce que voilà. Mais si je joue contre Raph ou Théo, ou Franck, j'y arriverai peut-être.
Ouais, attention, ils vont suivre des indiens. On va tous faire un gros training dans la salle du temps, tu vas voir, ça va être
Moi, je vais pas jouer, je vais que jouer en mode local, tout seul, tu vois.
J'ai pas de connexion internet
qui est débranché.
Pour faire du tout, il y a un mode entraînement dans le jeu.
Bah, c'est ça, à l'époque, il y avait pas ça. Maintenant, il y a.
On continue avec toi, Raph.
Ah bah écoute, moi, ma news aujourd'hui, ça va être la sortie de Super Mario Odyssey, qui est sorti aujourd'hui sur Switch.
Que j'ai dans mon sac, si jamais.
Bah écoute, t'as plus de sac, je suis désolé.
Il a disparu.
Non, je voulais le récupérer avant, j'ai pas pu, j'irai le récupérer demain. Mais non, vraiment, gros jeu attendu. Là, JVC lui ont déjà donné un 19 sur 20.
Il est vraiment très bien.
Ça l'a claqué
de nouveau. Il s'est tapé les mêmes métacritiques que Zelda, donc pour Nishan, c'est nul. Pour le reste de la Terre, c'est un des jeux de l'année.
Non, je dirais pas ça, mais bon. C'est toujours pareil quand t'as des gros hits qui sont annoncés. Généralement, tous les magazines de jeux aujourd'hui vont te dire, ah non, c'est le jeu qu'il faut absolument avoir. On va te mettre 19, 20 sur 20. On sait très bien qu'un
journal du geek a mis que 8,5 sur 10. Hein.
Ah, des vrais gars.
Que 8,5 sur 10.
C'est parce qu'ils avaient la démo, c'est pour ça. Grave. Vous n'avez pas joué.
Non, ouais, mais donc... voilà, encore un jeu phare de l'année, quoi. On l'attendait, hein. C'est, pour moi, c'est la deuxième plus grosse sortie. Enfin, la deuxième. Si je ne tapais oui. pas tous, hein. Mais la deuxième seule sortie sur Nintendo Switch.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'à part Zelda, je suis désolé, il n'y a pas eu grand chose jusqu'à maintenant.
Qui a été ouais, Lapin Crétin,
il
est.
On parle de vrais jeux, on parle
c'est
de vraiment.
Il est fun et tout, mais on, ça manque de gros jeux. Quand tu vois la capacité de la Switch avec Zelda, par exemple, ils ont mis la barre tellement haut.
Ouais.
Et au final, t'as que des démos à côté ou des jeux émulés du Street Fighter 2, enfin du
Ultra Street Fighter.
Ouais, pardon. Mais voilà, c'est pas ce que mérite la Switch, quoi.
Ouais,
et là, t'as un Mario Odyssey qui sort, qui va remonter de nouveau le niveau, ouais. Et ça fait plaisir. Donc j'ai hâte de pouvoir tester tout ça.
Après, pour Mario et les Lapins Crétins, moi je trouve que c'est vraiment un nouveau tour de force de la part de Nintendo, comme ils l'ont fait avec Zelda, dans le sens où avec Zelda ils ont ouvert l'univers RPG un peu plus solide
ouais.
à tout plein de joueurs qui n'y touchaient pas parce que ils pensaient que c'était trop compliqué ou quoi. Là, il y a toute une partie farming et craft dans Zelda qu'il n'y avait pas avant et qui montre à plein de joueurs que les RPG ça peut être fun de ce côté-là.
Ah ouais, clairement. Hein.
Et là, avec Mario et les Lapins Crétins, bah, ils ont fait le même tour de force, c'est-à-dire que ils vont ouvrir le monde du tactical RPG à plein de joueurs parce que c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment du tactical RPG pour des gens qui connaissent pas du tout. C'est super bien fait, bien amené et super fun à jouer parce que le côté lapin crétin, tu te marres toutes les 5 minutes.
Pour une fois, ils ont rendu le lapin drôle, ouais.
Et comme ça, dans quelques semaines, on va retrouver une version émulée de Super Mario RPG sur Switch, tu vois.
mais du coup, je rebondis sur ce qu'il a dit, c'est là que Nintendo est fort de nouveau. Bah, c'est de, avec la Wii, ils avaient fait découvrir les consoles de salon à la famille. Que ce soit avec la Wii Balance, la Wiimote, enfin des conneries comme ça. Là, maintenant, bah, ils font découvrir ce qu'ils veulent. Au final, avec la Switch et tout, ils font ce qu'ils veulent. Nintendo, ils se baladent.
Ouais, c'est vrai.
Et ils sont copiés par beaucoup d'éditeurs. Là, il y a plein de petites consoles portables avec des Windows 10 dessus qui tournent. Il y a même des mecs qui se sont fait leur propre Switch avec un Raspberry. Donc,
tu vois que c'est possible.
Fallait pas dire ça.
Encore une fois, comme tu dis, au niveau du concept, ils ont encore fait fort, quoi.
Ouais, donc clairement.
Non, mais là-dessus, ils sont. Ouais, je confirme, ils sont indétrônables. Les mecs sont très très bons.
Et après, Benoît, d'ailleurs, si tu m'entends.
Ah oui.
On t'en...
Il n'écoute plus l'émission depuis. Il a entendu parler. Enfin, il savait qu'on avait parlé de Mario Odyssey. Il s'est dit, ce soir, j'écoute pas. Non, mais c'est vrai que ouais, je sais pas. Comme dit, voilà, je n'en parle pas parce que je l'ai pas testé pour l'instant. Et à part toi, Nico, personne d'autre ne l'a testé autour de cette table, j'imagine.
Mario Odyssey,
ouais.
Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore pu. Mais ça ne saurait tarder. Bon, il est sorti aujourd'hui en même temps. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est
je vais vous montrer après pendant la pause musicale.
Voilà. Voilà. Pardon.
Exactement.
Tu vas durer une heure, bizarrement.
Théo vient de nous rejoindre
bonsoir,
dans les studios.
Théo.
Salut Théo, comment
Salut
ça va
Théo.
Salut, ça va et toi?
Bah écoute, ouais, super, super.
Nous aussi, on va bien, merci de le demander.
Ah non, mais je m'en fous en fait.
Voilà, on s'en fout. On continue avec tes news, Raph.
Je voulais annoncer un drame. Si tu peux mettre une petite musique d'ambiance triste, là, je sais pas. Hello Darkness, my old friend. Un truc comme ça. Non, je voulais annoncer. C'est carrément l'opposé de tout ce que je dis d'habitude. Hein, vous allez être choqués. La mort de Destiny.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, je suis triste. J'ai pulvérisé le 1. Le 2, j'y joue encore. Je me bats encore pour y jouer. Mais plus personne n'y joue, quoi.
J'ai commandé 1000 t-shirts. Je suis Destiny.
C'est ça. Hashtag
oh
je
non
suis Destiny.
Je suis Destiny.
Destiny. Ah, pas mal.
Pas mal. Ouais, je vais faire de l'argent avec ça.
Balance ton Destiny. Non, en gros, il y a une semaine, je crois, à peu près, Bungie a balancé un bilan avec des statistiques qui montraient la fréquentation des joueurs. Donc, 6 septembre, tu voyais, c'était très, très haut. Et au fur et à mesure, ça tombe, que ce soit en PVP ou PVE. Donc, en mode compétitif, en joueur contre joueur ou en mode histoire, balade, etc. Ça a dégringolé, c'est la folie. Moi, dans mon clan, on est une soixantaine. Au final, on est deux à se retrouver presque tous les soirs pour jouer. Tout le monde est passé à autre chose, manque à mon avis de... Bon, ça fait un mois qu'il est sorti, mais
qu'est-ce
pas assez
fait,
de...
Qu'est-ce justement ce gros problème?
À mon avis, pas assez de loot différent, Parce que tu vois, dans toutes les pubs et tout, ils disent ouais, montagne de loot, tout ça. Ok, ça fait que un mois, mais quand tu tapes à farmer, à avoir, je sais pas, 50 000 exemplaires de 4 armures différentes, qui sont toutes moches en plus, c'est un peu triste. Manque de contenu, parce qu'au final, ben, tu te retrouves à faire la même chose que dans le 1. C'est-à-dire tous les mardis, quand il y a le reset, à faire tes missions, tes quêtes hebdomadaires, etc. Tu les fais en une journée, une soirée même, des fois. Hop, peut-être le raid qui va durer un peu plus longtemps, le temps de trouver du monde. C'est même pas le temps de faire le raid, c'est le temps de trouver du monde. Et après, ben, tu vas te faire chier à partir de jeudi jusqu'à mardi prochain. Et le mardi, ben, tu vas refaire tout ça et tourner en rond, quoi. Donc, refaire la même chose. Ce qui était intéressant dans le 1, c'est qu'il y avait tellement de loot différents que, ben, au final, tu te faisais jamais chier, quoi. Il y avait toujours autre chose à faire pour looter un autre truc. Là, donc, t'as les quêtes pour avoir des armes légendaires rares qui sont, enfin, exotiques rares qui sont faites dès le début, quoi. Tu les torches, franchement, 3-4 heures de jeu, tu les as faites. Le mode histoire, en 5-6 heures, tu l'as fait. Bon, t'as 3 persos, donc tu le refais 3 fois, ce qui est un peu relou aussi. Le niveau de lumière, là, il y a le raid hard qui est sorti. Donc, les raids, c'est quand vous êtes 6 à faire une espèce de grosse mission hyper périlleuse. Et ben, le raid hard, donc t'as une armure différente, mais la récompense, donc t'as pas d'augmentation du niveau général, t'as juste un ornement d'arme, donc c'est juste un skin pour une arme différente.
Ah super, oh bien.
Donc la carotte là, il y en a plein, ils ont fait le raid hard, ils ont fait ok, ciao, ça sert à rien de le faire. Au final, tu fais juste ton raid normal, ben, vu qu'au niveau de puissance maximale, ben, tu peux pas monter plus. Ben, ça sert à rien de faire le raid hard vu que tu montes pas plus. Pas assez reconnaissant parce que, à force de faire même les quêtes exo, hebdomadaires et tout, etc., ben, au final, tu lootes des trucs qui sont moins puissants que ce que t'as sur toi. Ce qui est insensé, tu vois, dans un jeu, tu fais le jeu, justement, tu y joues pour avoir toujours plus et plus et plus. Ben là, non, au final.
Ça devient limite un jeu de casu, quoi.
Exactement, malheureusement. Après, on verra avec les premières DLC et tout ce que ça va donner. Hein, mais
quand on a vu tout l'engouement qu'il y a eu justement autour de ce jeu, ça fait quand même très longtemps que les gens.
Ah, moi j'étais le premier fou.
Les gens attendent justement Destiny 2 et là je vois que le jeu, j'ai envie de dire qu'il est quasiment mort, mais.
Ah bah limite, hein.
Je me rappelle, il y a 3-4 mois, dès que j'ai allumé ma PS4, je voyais tous les gens connectés sur Destiny. Les 3/4 de ma commu aujourd'hui jouaient à Destiny. Là aujourd'hui, je regarde.
Il y a plus personne. Ils jouent tous à Fortnite.
Non mais c'est... ouais, il y a ça un peu. Et ouais.
Non, mais le pire, c'est que la dernière fois, avec des potes de la team, donc on était 4, on s'est réunis, on a fait vas-y, on va faire la nuit noire, donc espèce de quête hebdomadaire et tout, assez difficile. On a fait ça et après on a fait. Eh, on se fait une partie de Fortnite. Allez, vas-y.
Ah oh, mince.
c'est horrible quand même d'en arriver là, tu vois.
On en est arrivé là.
Mais ouais, donc la mort de Destiny 2, donc on verra avec les prochains DLC s'ils arrivent à remonter un peu le niveau. Mais pour Bungie, à mon avis, c'est le ras-le-bol des joueurs. Parce que déjà dans le 1, les gens en avaient marre parce que ils t'annoncent un jeu, au final ils te mettent une première, deuxième DLC, troisième, quatrième DLC, au final ils disent ah mais le Season Pass que vous avez acheté c'est que pour les deux premières DLC, donc entre mes 4, 5, 6 DLC derrière, au final faut que tu les rachètes toutes 20, 25 balles.
Ouais, c'est ça.
Voilà, j'en connais qui ont claqué 200€ dans le jeu, et encore, ça va. Mais je trouve ça hallucinant, et je pense vraiment que c'est le ras-le-bol des joueurs.
Moi j'ai un concept là-dessus. Hein. Je me dis, si le jeu me tient un an, et qu'il joue en non-stop, en continu, s'il me coûte effectivement... Ouais, c'est rentabilisé. Je me dis, bon, mon jeu m'a coûté peut-être 200 balles. Bon bah, par contre je l'ai dosé à fond, j'ai passé tout... Je joue au moins 2-3 heures, 4 heures, 5 heures par jour... Ok, pour moi, ça valait peut-être le coup de mettre 200€ sur l'année. C'est pas excessif non plus. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui achètent des jeux vidéo qui dépensent 60-70€ par semaine pour prendre un jeu qui leur dure 6 heures et ensuite le revendre sur un magasin. Je peux pas citer de nom parce que voilà, il y en a plein. Il y a pas que forcément
Big M.
Par exemple, non, Big MZ, mais non, c'est Necromania Zing. Attention.
Ok, d'accord.
Il y a une fusion qui s'est faite avec Zing justement pour proposer des produits dérivés. Des produits dérivés, donc maintenant les Micromania seront peut-être un peu plus axés sur les produits dérivés que sur le jeu vidéo. Voilà, ça c'est la petite okay,
news. Il y avait déjà une petite transition, tu le voyais dans les shops, il y avait de plus en plus de produits dérivés.
Ouais, par exemple, ouais, là, tu prends le magasin Micromania Strasbourg Centre, big up à Thomas et à toute son équipe.
Popo.
on voyait qu'effectivement, il y avait presque une partie du magasin où il y avait que de la figurine, des posters, des t-shirts, des choses comme ça. Mm. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est là vraiment la fin des magasins de jeux vidéo? J'espère pas, parce que c'est vraiment triste.
Ouais, quand tu vois les grandes surfaces, je veux dire, désolé pour Micromania, mais là par exemple Mario Odyssey, je suis allé l'acheter où? Chez Leclerc. Parce que le jeu, je l'ai payé 20 balles de moins que chez Micromania.
Ouais. Ouais, là-dessus.
Je veux dire, il y a un moment, quand tu joues beaucoup, quand tu vois le prix des jeux, je veux dire, tu regardes aussi au portefeuille de temps en temps.
20 euros, tu vois, sur 70 euros, ça te fait quand même.
J'ai vu sur le site Micromania qu'il le vendait 65, moi je l'ai payé 45, donc ça se trouve, s'il est en magasin, il est à 70, ben, ça fait 25 balles de moins, quoi.
Ah ouais, c'est un quart du prix. C'est
après, tout se paye clairement. Mmh. Entre un conseiller qui va être en magasin pour tenir un beau magasin.
Ah, clairement. On en a déjà parlé d'ailleurs.
Bien sûr. Et un magasin type, je peux pas dire Auchan ou Leclerc ou n'importe quoi, mais.
Grande surface, quoi.
Une grande, voilà, un centre hyper ou un truc comme ça, où le jeu est exposé et puis bonjour, est-ce que vous pouvez peut-être me renseigner? Bah écoutez, non.
La mère de famille qui va dire: ah mon gosse, il veut GTA 5, vous lui conseillez, il a 12 ans.
Ouais, voilà.
Ben ouais, il se vend bien, allez-y.
Ouais, j'ai bossé là-dedans, et je peux te garantir que franchement.
Ouais, non, mais c'est sûr.
C'est catastrophique.
C'est surtout pour les jeux Day One, quoi, que t'as ça. Parce qu'après, moi, je veux dire, en dehors de ça, je préfère aller voir les petites boutiques, même si ça reste un groupe Micromania, justement, t'as le conseil des vendeurs. Et,
complètement.
Et puis, c'est la famille. Sur un jeu.
C'est grave.
Donc, mais je veux dire, c'est aussi les éditeurs qui font ça, qui proposent des jeux qui, comme tu le dis, durent plus longtemps.
Alors, attention, hein, c'est pas forcément. Enfin. Les prix impactés aujourd'hui ne sont pas forcément dus aux éditeurs. Hein,
ouais, non, clairement, c'est.
Ça dépend clairement des centrales d'achat.
Oui, aujourd'hui. Mais enfin, il y a plein de facteurs, mais je veux dire, c'est toujours aujourd'hui, t'as plein d'éditeurs qui te font des jeux, qui vont te vendre le même prix que les autres, qui vont te durer, comme tu le dis, 6, 7, 8 heures. À côté de ça, t'as des indépendants. Je veux dire, tu prends la Cuphead, je suis à plus de 30 heures de jeu, le jeu il coûte 20 balles.
Ouais.
Enfin, je veux dire.
Justement, j'allais en revenir là-dessus, tu vois, par rapport à Destiny. J'allais dire que là, dernièrement, à part Fortnite, donc qui est gratuit, hein, c'est un espèce de PUBG, mais version plus fun, cartoon, etc. Il y a un autre jeu en ce moment, c'est Speedrunners. Bon, il date un petit peu, hein, mais il y a la démo, elle est gratuite sur le PS Store et il est à 5 euros, enfin 4,99 au lieu de 9,99. J'ai téléchargé la démo la dernière fois avec trois potes. On a passé toute l'après-midi. Je crois qu'on a commencé à 13h, un truc comme ça. On a arrêté de jouer. On a dit, oh, vas-y, on fait une pause. Il était 19h. Le jeu est tellement prenant.
Quand même.
Que tu t'arrêtes pas. En fait, c'est un espèce de jeu de course dans un circuit bouclé. Mmh. Et en gros, t'as des obstacles, des pièges, etc. Des super pouvoirs, façon de parler. Et il faut que tu cours. Et en gros, celui qui sort de l'écran, il meurt.
Ah oui, c'est un truc que le premier.
On avait joué ensemble, en plus.
Oui, bien sûr.
Mais oui, exact.
Chez Steph.
Exact.
Et en gros, donc, à partir du moment où il y en a un qui meurt, l'écran il se rapetissit. Enfin, la vision de l'écran rétrécit. Et du coup, au bout d'un moment, bah, tu vois quasiment plus rien, quoi. Et là, donc, faut que tu devines les obstacles. Bon, au bout d'un moment, tu connais tout par cœur. Mais ce jeu est génial. Et franchement, pour 5 euros, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rentable qu'un Destiny à 70 euros. Qui te vend tout le rêve qu'il y a autour et tout, etc. Bon, j'avoue, hein, moi j'ai plongé les deux pieds dans Destiny, hein, mais au final, c'est difficile, hein, pour Destiny.
Ouais, et puis après ça reste un bon jeu où tu joues avec tous tes potes. Speedrunner, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça, un speedrunner.
Pour 5 balles, tu sais que t'achètes un jeu de valeur sûre, il va durer peut-être 2-3 ans, mais à chaque soirée, tu vas te dire, bon, bah t'as des gens qui touchent, enfin qui sont un peu... Ah, tu fais du jeu vidéo, machin, on passe une bonne soirée. Et ben écoute, je te lance un speedrunner, on va bien rigoler, tu vois.
C'est ça, tu expliques les boutons, t'as 4 boutons différents. Ouais, vas-y,
c'est
ça. Balance.
Bah, c'est ce qu'on fait quand on a joué ensemble, justement, parce que la communauté de gens qu'on fréquente n'est pas forcément gamer. On a aussi d'autres potes qui sont pas forcément gamers, ça arrive, exactement. Et on a passé une bête de soirée parce que les gens ne comprenaient pas. On a bien rigolé, on leur a expliqué comment ça marchait. Et d'un coup, on était quasiment une dizaine à jouer, et c'est top. Alors qu'un Destiny aujourd'hui va te coûter peut-être. 14 fois plus cher, clairement, c'est ça. Tu joues à jouer en solo, ou quand tu vas vouloir jouer en online, ben, pas de potes.
Ouais.
C'est triste.
Non, clairement, hein, c'est ça qui est malheureux. Hein.
Après, mais bon. Voilà. Destiny 2, là, mon frangin m'a envoyé un message, il me disait, les développeurs misent beaucoup sur les DLC. C'est sûr.
J'espère.
faut quand même, c'est bien de miser sur les DLC, mais faut que ton jeu de base, il puisse continuer de vivre, enfin, ce que tu dis, un mois après, enfin un mois et demi après la sortie du jeu, qu'il n'y ait plus personne dessus, pour un jeu qui se veut, je veux dire...
révolutionnaire, il était censé...
La suite de Halo, enfin, qui va regrouper autant de joueurs que Halo...
Bah c'est le 1, il avait commencé un peu pareil, mais bon, c'était le 1, c'était le premier, il savait pas quoi trop faire, donc le jeu de base était vraiment pauvre, beaucoup plus que Destiny 2 d'ailleurs, okay. Et c'est les DLC qu'ils ont rajoutés au fur et à mesure. Okay. Mais là, Destiny 2, en fait, j'ai l'impression qu'ils refont les mêmes erreurs et qu'ils s'en battent les couilles, clairement.
Après ils disent peut-être qu'ils vont reprendre la même sauce et que ça va marcher. Après, comme disait Nishan, s'il y a des mecs qui... Si pendant un an tu joues un jeu en achetant les DLC, mais pendant un an tous les jours tu passes 3, 4, 5 heures dessus, là effectivement c'est rentable. Les mecs qui jouent à FIFA, chaque année ils rachètent le nouveau FIFA et ils claquent des thunes pour acheter des trucs clairement. FUT là, machin, pour se faire leur super équipe. Mais les mecs qui passent des heures tous les jours sur le jeu. Donc là effectivement la rentabilité on peut l'avoir autrement.
Après c'est une façon de voir les choses en fait, hein, clairement. Moi je trouve ça vraiment hyper rentable, enfin rentable oui, parce qu'à partir du moment où justement tu, comme dit, tu claques un peu d'argent, c'est pas excessif, mais ça te permet de prolonger la durée de vie de ton jeu auquel tu joues pendant des heures et des heures. Bah, moi je me dis ok c'est bon, en sachant que les mecs ont quand même taffé dessus, tu vois.
Ouais non, clairement, moi, je suis mais par rapport à ce qui en est pour l'instant du jeu, comme je disais, par rapport à ce qu'ils avaient dit, plus de loot et tout etc, bah, au final non.
Ouais, ça, c'est dommage. Ça, c'est la disquette. Ouais, bon, ça après.
À moins qu'ils aient dit oui, enfin, ce sera dans les DLC et tout. Mais bon, c'est, faut arrêter au bout d'un moment, quoi.
Ouais.
On aime bien les DLC, mais voilà. Si au final, tu prépares ton jeu pour juste vendre des DLC derrière.
Aucun intérêt. On est bien d'accord.
Clairement.
Prochaine news, Raph. Est-ce que tu as encore.
Prochaine news, Théo.
Attends, j'ai juste un petit truc.
Ouais, c'est ce que j'avais à dire.
Sur Destiny 2, c'est qu'il y a eu la sortie PC cette semaine. Du coup un peu plus d'un mois après, alors ça a été entaché par une vague de mécontentement en disant oh là là, si on utilise genre MSI Afterburner qui est un logiciel pour avoir ses performances en jeu, ou Discord, ou TeamSpeak, etc., qui met un overlay en fait sur l'écran, et il y en a qui disent oui, je me suis fait ban à cause de ça.
Ban, ouais.
Alors ouais, j'ai vu ça, ouais. Bungie a très vite réagi en disant non, c'est que des bans manuels, le jeu ne peut pas ban quelqu'un, c'est que des bans manuels. Ils ont reconnu il y a quelques bans qui étaient abusifs, les gens ont été débannis directement. Sinon, tous les gens qui ont été bannis, c'est des gens qui avaient des logiciels de cheat, donc avec donc des aimbots, donc des trucs pour mieux viser, des wallhacks pour voir à travers les murs, etc., qui étaient déjà préinstallés. Alors eux, ils les ont directement bannis, il y en a eu à peu près 400. Mais du coup, ouais, non, la sortie PC a été un peu entachée de ça, alors que pour tout le reste.
Oh, t'inquiète, hein, la sortie PS4 aussi, hein, il y a eu des gros problèmes de DDoS et tout, etc.
Ouais, non, mais, DDoS, mais là, c'est des joueurs qui se sont fait directement bannir et qui, du coup, ont râlé sur les forums en disant oui, mais pourquoi je me suis fait bannir alors qu'il n'y avait aucune raison, etc. Du coup, les gens au début pensaient que c'était à cause de ça, alors que non, pas du tout. Bungie a quand même tenu à clarifier les choses et je sais que ça râlait pas mal.
Non, de ce côté-là, Bungie, ils bannissent très peu quand même par rapport à tous les signalements qu'il peut y avoir et tout, etc.
Parce qu'ils font la main.
Les mecs qui, je sais pas moi, combien de parties de PVP j'ai joué où t'as le mec en face qui se téléporte tout seul, tu lui vises un chargeur entier, t'as aucun dégât qui part, lui il te met une balle, il te bute, et enfin, parce que sa connexion elle est merdique, donc le temps que les dégâts ils arrivent chez lui, ben toi t'es déjà mort, quoi. Après, il y a eu aussi les soucis de DDoS, donc en gros, c'est des joueurs qui vont rager et du coup qui ont des logiciels, je sais pas comment ils font ça d'ailleurs, c'est du hack. Et en gros, ils vont bousiller ta connexion internet chez toi, envoyer trop de flux pour qu'elle lâche, et du coup, tu te fais déconnecter.
Ouais, c'est un
peu ça, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça là-dessus. Et bah, malheureusement, Destiny ne peut rien faire là-dessus. Hein.
Non, c'est clair.
Donc, niveau des bans, même ça, ils peuvent pas bannir les gars parce qu'il n'y a pas de preuve que ce soit le joueur lui-même qui le fasse. Enfin, au niveau du ban, Destiny sont quand même assez réglo, ils font gaffe. Donc voilà,
okay.
C'est tout pour mes news.
En attendant que Théo s'installe, je voudrais passer un petit big up à tous les potes qui nous écoutent là.
Big up, blabla.
Voilà, Groove R&B Funk, donc l'émission qui est sur RBS aussi.
Ouais,
big
Melka.
Up à vous les gars. Eh ouais, mon gars Melka, exactement. Que vous allez bientôt voir. J'en profite 30 secondes pour faire une petite promo sur la RBS Party qui se passera donc le 10 novembre au Stride Bike Park. Avec toute la pointure de la radio, donc une douzaine de DJ présents sur la soirée. Donc voilà, Melka effectivement sera présent pour cette grosse soirée. Donc on vous attend. Ben, de toute façon, l'équipe de la Chronique Geek n'aura pas le choix. On sera là. Donc n'hésitez pas.
On fera quand même l'émission. Et on y sera après.
Voilà, exactement. Moi, non, mais toi, oui. Mais on sera effectivement présent. Donc n'hésitez pas, autour d'un verre, on peut parler de jeux vidéo ce soir-là. On aura tous des consoles sur nous, tu sais, des Switch planquées dans les. Ou des PSP planquées dans les poches. En attendant, donc voilà. Un petit big up aussi à Alexandre B qui nous écoute, donc membre de la chronique aussi.
Bonsoir Alexandre.
Il nous fait un petit bisou aussi, il n'a pas pu venir ce soir malheureusement, mais prochainement il va se débrouiller pour venir. Voilà, bref, en attendant, Théo s'est installé. Voilà, salut Théo, donc tu as des salut. News pour ce soir.
Oui, d'abord je voulais juste revenir sur quelque chose. Je suis content en fait de vous entendre dire que les triple A commence à se moquer de nous, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps, et puis de voir que vous parlez de jeux indés très naturellement, tu vois, moi ça me fait plaisir.
Ah mais clairement,
parce
moi
il y en a des dizaines de milliers, qu'il y en a des très fun, qu'il y en a des très profonds, qu'il y en a des très longs, qu'il y en a des voilà.
Et Théo, c'est force de vous en présenter chaque semaine.
Il y a de tout. Ouais, d'ailleurs, je vais vous parler d'un jeu indépendant si j'ai le temps. Pas des plus originales, mais indépendant quand même. En attendant, ma news, on en avait parlé dans cette émission en fait juste avant que j'y aille et même avant. Je vais faire un petit débrief, un petit live report en direct, sans notes, devant vos yeux ou dans vos oreilles plutôt.
Plutôt, ouais.
du XSB.
Non, on n'avait pas dans l'oreille.
Le X-Street Battle qui s'est déroulé à Lyon donc il y a 2 semaines.
C'est
maintenant.
Ça, il y a 15 jours à peu près. Ouais.
Il y a quasiment 15 jours, ouais. Pour rappel, c'était une compétition majeure européenne sur Street Fighter 2 qui est encore jouée en tournoi. Et donc en fait, nos
Street Fighter
2X, oui, la dernière version de Street Fighter 2, celle qui est jouée en tournoi encore maintenant. Nos amis en fait de La Dose, qui est une association de jeux de versus à Lyon, ont organisé ça d'une main de maître. Hein, faut le dire.
J'adore le nom, hein, La Dose.
La Dose, ouais, c'est terrible.
La Dose.net.
Il y a First Attack dans l'émission la semaine dernière.
Oui, exact. Nos copains de Bretagne.
Voilà, La Dose. Ici, c'est Ring Out, hein, l'association qui
c'est ça.
Du versus fighting.
C'est ça.
Donc voilà, les noms sont toujours savamment choisis. et donc à Lyon, oui, il y avait donc une compétition majeure qui a été organisée. Pour rappel, donc il y avait probablement les meilleurs joueurs français de Street Fighter 2 de tous les temps. Ceux qui ont gagné le Stunfest, ceux que tu vois tout le temps sur Fightcade pour jouer en ligne à Street Fighter 2, etc. On avait pas mal de joueurs européens. Beaucoup d'anglais se sont déplacés. Je pense à Golkar Jack qui joue Guile, qui est peut-être le meilleur Guile en Europe. Orf qui est le meilleur Ryu en Europe, très probablement. Des Allemands aussi sont venus, et les deux Italiens, les deux éternels, Spinal Blood et Biolo, Dalsim et Old Sagat respectivement,
ouais.
Qui sont absolument adorables. Vraiment, c'est des crèmes, ces deux Italiens, ils étaient super gentils. Et donc, j'y suis allé, je vais faire un petit live report comme ça en direct.
Alors, mais surtout, t'as oublié.
Oui. Dis-moi.
L'équipe Japan.
Et oui, bien sûr, les Japonais. Mais je vais y venir parce que bon, tu peux pas y couper. Je suis arrivé là-bas le samedi matin avec Nicolas, qui nous écoute peut-être, qui est un joueur de DJ, probablement le meilleur DJ alsacien.
Le seul DJ alsacien.
Le seul unique et le meilleur. On est arrivé là-bas. Donc, moi, je connaissais déjà la salle, mais en gros, il faut vous imaginer un magasin pas très grand, qui est plus petit que le Micromania Strasbourg,
ouais.
du moins le rez-de-chaussée, avec des bornes 2X un peu éparses au rez-de-chaussée, mais il y a un étage en fait, une espèce de véranda vraiment pas très grande non plus, où là il y avait peut-être beaucoup de bornes reliées en versus, il devait peut-être y en avoir, allez 6 paires, une douzaine de bornes,
ouais.
Là-haut. C'était une véranda en bois en plus, donc quand il y avait tous les joueurs là-haut, on avait tout le temps l'impression que ça menaçait de s'effondrer.
Ouais.
et il y avait 85 personnes là-dedans, quoi.
Donc même c'était très très gros tournoi.
C'était vraiment très très
colossal.
Vraiment dingue en fait de voir 86 personnes qui étaient venues pour jouer ensemble à Street Fighter 2, quoi. Tous les gens, en fait, toute la communauté s'est réunie. On est complètement éclaté un peu dans toute la France. Il y en a de Paris, il y en a de Toulon, il y en a de Marseille, il y en a de Bretagne, évidemment, etc. Et on était tous réunis, tous autour de Street Fighter 2. C'était vraiment, vraiment super agréable à voir et de partager avec eux et de jouer avec eux. Et puis en fait, bah, comme Nishan vous l'a souvent expliqué, le principe de la bande versus, c'est qu'on se met derrière et qu'on ne voit pas qui va s'asseoir derrière et mettre sa pièce, parce qu'au début, c'était pas du free play. En fait, on devait vraiment mettre la pièce dans la bande d'arcade comme à l'ancienne. Et quelqu'un arrive, met la pièce, on ne sait pas qui c'est, on joue contre lui, on gagne, on reste sur place, on est content, on perd, on se lève, on regarde qui c'est. Et en fait, la plupart du temps, là, on se levait. On disait « Ah, t'es plutôt fort, toi, comment tu t'appelles ?» et tout. Et en fait, on découvrait les visages des pseudos qu'on voyait sur Fightcade.
Voilà.
Et ça, c'était vraiment, vraiment amusant. À un moment donné, moi, j'avais un bon beat by 5 ou 6, et je me lève, Et c'était un Tio qui m'avait battu. Je me lève, je lui fais oh, t'es plutôt fort, etc. Machin. Tu t'appelles comment? Et en fait, c'était Pof, c'était le créateur de Fight Cad.
C'est beau.
C'était plein d'anecdotes comme ça sur les joueurs de la communauté Street Fighter 2X en France et en Europe.
Alors, petit rappel aussi pour les gens qui ne connaissent pas forcément Fight Cad. Aujourd'hui, Fight Cad, c'est un émulateur qui nous permet aujourd'hui de retrouver tous les joueurs mondiaux. Hein, ça reste quand même mondial. Sur quasiment tous les jeux de Versus sortis jusqu'en quoi 80
allez on va dire 2000... 98
non 90, mais après 99. Parce qu'on peut jouer encore à KOF 2002 par exemple, donc toute cette partie Neo Geo arcade CPS1 CPS2 CPS3 parce qu'on monte sur Street Fighter 3.3 on a tous possibilité donc de venir d'installer ce système là et de jouer et de rencontrer comme dit les meilleurs joueurs mondiaux parce qu'on est quasiment tous connectés dessus et ça tue tout le temps, tu as toujours du monde qui joue sur Fight Cad.
Oui. C'est juste génial Fight Cad. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui est, je pense, en bonne partie ce qui a aidé à ce que il y a une si grosse communauté Windjammer qui se reforme.
Oui, exactement.
Et, clairement, je pense dire, c'est le jeu a pris une hype de ouf justement grâce à Fight Cad.
Grâce à Fight Cad, ouais, carrément.
Ah, les joueurs ont pu s'affronter entre eux, etc. On pu se mesurer, et ça les a fait beaucoup progresser en fait de jouer ensemble plutôt contre l'ordinateur.
C'est vrai que sur des jeux comme ça, maintenant on joue par exemple à Street Fighter 2X, enfin Super Street Fighter 2 Turbo si on veut vraiment être précis. Ça devient très compliqué parce que soit il faut avoir une communauté pour pouvoir justement doser entre potes et des choses comme ça, ou alors tu doses comme un sans amis tout seul chez toi sur le mode arcade.
Oui.
Et ensuite tu arrives en tournoi et tu te dis voilà, c'est maintenant que je vais prouver mon niveau.
Oui. Pas de bol, si par exemple tu joues à Mark of the Wolf et que t'es à Strasbourg, des joueurs, il y en a un. Il est animateur. Voilà,
et donc je ne progresse pas.
Mieux vaut jouer sur Fight Cad si on veut connaître un peu tous les match-ups.
Ouais, c'est vrai.
Et donc on a joué toute l'après-midi jusqu'à 20h. C'était vraiment bien organisé parce qu'ils ont bien respecté le timing, etc. Ils devaient encore faire des setups pendant qu'on est allé manger, etc. Ils ont installé des super guns en bas au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en fait qu'on peut jouer avec la PCB, donc ce qu'on met dans la borne, mais sur une télé.
La cartouche originale.
Sur une télé, on n'est pas obligé d'avoir une borne, donc ça, c'était en free play en bas. Et le tournoi a démarré, donc ça s'est un peu écrémé. C'était très cruel hein, le tournoi parce que c'était FT2. Donc deux matchs gagnants et élimination simple, c'est-à-dire que quand vous avez perdu, vous ne pouvez pas jouer une deuxième fois.
Il y a pas de loser bracket.
Voilà, il y a pas de tournoi des perdants entre guillemets. Vous êtes éliminé et c'est foutu. Moi personnellement, je suis tombé contre. Alors j'ai cherché tout l'après-midi en fait la personne contre qui je devais jouer. Et au bout d'un moment, je l'ai trouvé dans la soirée et c'était un type qui avait son pseudo marqué sur son t-shirt. Avec marqué X-Mania dessus.
Ouais.
Donc, note pour plus tard, si jamais vous allez à un tournoi et que vous voyez un type avec son pseudo écrit sur un t-shirt, en règle générale, ça pue.
Ça, c'est vrai,
ça veut
c'est
dire vrai. Que vous êtes quand même vraiment mal barré. Et donc, je lui demande, je lui pose la question, je lui fais « Ah oui, tu as déjà fait le X-Mania et tout ?»« Oui, je les ai fait tous les quatre. » Je lui fais « Ok, bon, très bien. » Je vais m'asseoir derrière la borne et puis je vais faire ce que je peux. Hein. Évidemment, je me suis fait rosser.
Ça, c'était pour la partie tournoi solo. Hein, parce qu'il y a eu deux
c'était
parties.
Pour la partie ouais. tournoi solo, c'était le premier jour. Et au bout d'un moment, ça s'est de plus en plus écrémé. On a retrouvé tous les meilleurs joueurs européens en quart, en demi, etc. Et la finale, c'était Zaggy. Zaggy qui est probablement le meilleur joueur de Chun-Li en Europe, qui est français, ouais. et qui est un mec qui campe Fight Cad. Hein. Lui, sur Fight Cad,
je lance n'importe quand dans la journée. Il est dessus, le mec.
Non, mais bon, je pense qu'il est une vie active aussi. Il travaille, mais en tout cas, oui, il reste connecté. Et il joue probablement tous les soirs depuis plusieurs années. Quoi. Il a déjà gagné un Stunfest contre Abdel, qui joue boxeur. Et en fait, il s'est retrouvé en finale contre Kusumondo, qui est le meilleur Honda du monde.
Du monde, ouais, c'est ça.
Et je peux vous dire que Zaggy, il l'a fait trembler sa race, Kusumondo, vraiment. Il était vraiment pas serein. Il tremblait littéralement, en fait. Hein. Plus ça s'écrème, plus on avance dans le tournoi, plus quand on regarde les doigts des joueurs, on les voit trembler. N'importe qui, hein, et y compris Kusumondo.
Ouais, ça fait combien d'heures qu'ils jouent chacun aussi
Ah bah Kusumondo, ça fait 20 ans. Hein. C'est...
Non, mais
ça se compte même pas en heures.
Non, dans le tournoi, tournoi justement, ça fait combien d'heures depuis le début
du
tournoi?
Le tournoi solo, c'est allé relativement vite. C'était 2h30, 3h, ouais. quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord, ouais. Donc
4h max.
Complètement...
Ouais, c'est l'élimination directe. Hein. Tu perds, tu pars.
Ok, ouais,
4h max, on va dire. Et.
Imaginez jouer pendant 4h max.
Zaggy était à. Il y avait un partout et il était peut-être à un coup médium de l'avoir et de gagner le tournoi contre Kusumondo.
C'est ça.
Et le flegme et le sang-froid japonais ont fait toute la différence et Kusumundo a gagné. Il pousse des hurlements, hein, Kusumundo, quand il se concentre, etc. Il est pas, c'est pas non plus le flegme à la japonaise comme on
ouais,
comme
c'est
peut,
ça.
Comme on voit dans les mangas.
Imaginez quoi, voilà. Il crie, il est content, il souffle et il tremble. Hein. Vraiment, c'est.
Il joue à l'européenne en fait.
Il joue à l'européenne. Ouais, voilà. Il est pas serein.
Forest pour ça, il est encore plus fort.
et voilà, donc ça c'était pour la partie solo. Il y avait une ambiance. La bande d'arcade était en traviole à l'entrée du magasin et il y avait, il y avait 60 personnes qui essayaient de regarder les deux écrans. Quoi. C'était vraiment dingue. Il retransmettait en fait à la fois sur Twitch et à la fois sur un écran dans le magasin. Mais les gens étaient autour de la bande, quoi. Vraiment, c'était vraiment super.
Ça va être une ambiance quand même.
Franchement, c'était chouette. Hein. Tout le monde criait. Tout le monde connaît le jeu très bien, hein, donc on sait lire un petit peu ce que les joueurs vont faire, ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils ont réussi, etc. C'est vraiment super. Et le lendemain, il y avait la partie team. Donc là, c'était du 3 contre 3. Malheureusement, ça c'était peut-être le seul défaut, mais bon, c'est pas de la faute des organisateurs. Il y avait pas mal de gens qui étaient absents. Donc il y avait des gens qui se sont retrouvés par équipe de deux, voire tout seul.
Voire solo, ouais.
Il y a un type qui s'appelle Donian, je sais pas s'il nous écoutera un jour, que je salue, qui va peut-être venir à la Bad Cat d'ailleurs cette année.
Ah.
Et un joueur de Windjammers aussi, qui a striké une team à lui tout seul. Et je crois que c'était pas le premier tour en plus.
Ah ouais?
Ouais, je crois que c'était pas le premier. Enfin. Il l'a fait deux fois. Alors, je crois qu'il l'a fait. Non, attends, je dis peut-être des bêtises. Il l'a peut-être fait une fois en winner et une fois en loser, et après il a perdu. Mais il a quand même striké une team à lui tout seul avec son Ken, et c'était assez impressionnant. Le mec a bien taffé le jeu. Et le tournoi en équipe, en fait, les Français et les Européens ont battu les Japonais.
Oui.
Ils les ont sortis. Ils ont sorti Kusumundo. Ils ont sorti TMF, qui est le meilleur Zangief de tous les temps. Ils ont sorti Nakamura, qui est aussi la meilleure Camille de tous les temps, qui était là, très timide, très réservé, Nakamura. Il y a pas mal de il y avait vraiment tout dans les joueurs. Il y avait des joueurs assez expressifs qui te parlent, qui viennent t'expliquer des trucs. Il y avait des mecs qui s'en foutaient, qui étaient juste là pour gagner. Et il y avait des mecs qui étaient vraiment, vraiment, vraiment timides et qui sont bourrés de talent, quoi. Donc c'était vraiment marrant de voir un peu tous les profils. Et c'est une équipe française qui a gagné. Parce que c'est Milanea, très très bon Honda, qui va venir à la Bad Cat peut-être cette année.
Oui.
Mycophobie, qui est un joueur de boxeur, marseillais, qui est complètement, complètement hallucinant. Il doit peut-être avoir 17 ou 18 ans. Donc autant vous dire qu'il n'a pas connu Street Fighter 2 quand il était petit. Et Old Samir, qui est un vétéran lyonnais de Street 2. Et c'était vraiment agréable de les voir.
Très, très belle équipe. Hein. Et puis, effectivement, la performance de Mycophobie, qui était juste hallucinante.
C'est la sensation du tournoi.
Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
Parce qu'il jouait beaucoup sur Fightcad. Il parlait beaucoup sur Fightcad, notamment pour dire qu'il pensait gagner.
Ouais.
Bah voilà, il a gagné.
Il l'a fait. Ouais, c'est ça. Ouais.
Il l'a fait. Il était en plus assez réservé hein, comme personnage. Hein. Mais il est absolument hallucinant. Il a vraiment travaillé toutes les phases en fait du personnage à fond et il est extrêmement agressif. On voit en fait qu'il est un peu jeune même dans son jeu parce que justement il est très agressif. Il peut perdre son sang-froid et contre un joueur qui tank, etc. Mais lui était, enfin, il a une exécution qui est quasiment parfaite.
T'as pu jouer contre lui quand même ?
J'ai joué contre lui, mais je crois que j'ai pas fait long feu.
Ok, voilà. Parce qu'un match boxeur contre boxeur.
J'ai pris des matchs, j'ai mis des perfects. J'ai pris un match à Max 31, qui est le dernier vainqueur du X-Mania avec Camille. C'était son tout premier match. Hein. Il s'est assis, il est arrivé, il a fait oh là là, je comprends pas bien les contrôles encore de la board.
Ouais.
Une fois qu'il a compris, le deuxième match c'était bon. Hein.
Ah ouais, voilà. Soucis, quoi. Il a retrouvé la sensation de Camille. Voilà. Pourtant, Camille qui n'est pas forcément dans la tier list.
Ah oui, non, mais ça on peut en parler longtemps. Hein.
Ça c'est un des gros avantages justement de 2X, c'est que enfin. C'est qu'aujourd'hui, on a une tier list qu'on appelle une tier list, donc c'est le listing des meilleurs personnages calculés donc sur le nombre de victoires, sur le nombre de dégâts, leur vie, machin et tout.
Ouais.
Et justement, un personnage comme Camille n'est pas tout en haut, mais quasiment tout en bas.
Ouais,
et est considéré comme le tiers.
Elle a des coups qui sont très facilement punissables quand elle les rate, en fait.
Et surtout, elle n'a pas de vie.
Elle n'a pas de vie, elle peut se faire mettre stun très facilement.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a des gens qui ont dit qu'à cela ne tienne, moi je joue Camille et qui s'en sort très bien dans la vie. Hein.
Ouais, bah voilà.
Max 31 qui gagne un X-Mania. Contre TMF d'ailleurs, il avait gagné, qui est le meilleur Zangief de tout.
Le meilleur GIF de, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, toute cette communauté-là, je pense qu'on va, on va la retrouver à la Bad Cat, donc le
notamment,
premier week-end du mois de décembre, logiquement.
Ouais.
Et ensuite, la grande messe va se passer au HFS Summer qui aura lieu donc à Vierzon. Le 1er, 2, 3, 4 mai.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais.
Je sais plus quand exactement.
Je salue Mel et Pierrot d'ailleurs qui étaient là dans l'émission la dernière fois. Et que j'ai vu là-bas en fait. Je les ai rencontrés pour la première fois. Très
un
sympa.
Couple, le très, très bon fait long. Du Street Fighter 2X. Ouais. Un couple formidable qui, justement, aujourd'hui donc, a lancé donc, leur propre leur association qui s'appelle First Attack. On a eu la possibilité d'avoir la semaine dernière et qu'on salue qui aujourd'hui arrive à faire revivre l'époque arcade, enfin l'arcade. D'ailleurs, ils ont fait encore un gros week-end là. J'ai vu des photos. Ça avait l'air tellement ouf d'avoir une espèce de sous-sol avec que des bornes et puis plein de joueurs de toute la France qui se déplacent pour venir chez eux pour faire justement du tournoi. Franchement, gros big up à eux. Ça fait plaisir. On aura le plaisir de. Bah, c'est eux qui organisent justement la partie du HFS sur le. Bah, ils ont repris d'ailleurs le tournoi X-Mania, donc qui est le rassemblement européen de Street Fighter 2X. Et ce qu'on sait sur ce tournoi-là, c'est que effectivement, c'est un très gros tournoi, mais chaque joueur paye une inscription. Et l'argent qui est gagné, enfin qui est récolté, va permettre aux X-Mania de payer le billet d'avion, tout le défraiement pour faire venir des joueurs japonais en France pour venir tester le niveau européen et inversement tester le niveau français. Et c'est juste
qu'on fait la dose aussi avec le XSB. C'est vrai que ça se fait bien et c'est très propre et très transparent de faire ça. Ouais,
carrément. Parce que là, faire venir un mec comme Kusumundo ou peut-être, on discutait de ça avec Mel la semaine dernière, faire venir Daigo par exemple.
Oui.
Par exemple.
Ouais, c'est plus compliqué hein, étant donné que c'est un joueur sponsorisé, etc.
Je pense qu'il. Bah attends, on l'a fait venir à Strasbourg, monsieur, hein, attention.
Je sais bien. Mais c'était à l'époque, où Red Bull n'existait pas encore.
C'était juste une boisson.
Voilà, c'est ça.
C'est ça,
maintenant, c'est devenu tout sauf la boisson.
C'est ça.
C'est vrai.
C'est devenu des sauts dans l'espace.
D'ailleurs, ouais, je rebondis un peu, je suis un peu un complément de tout ce qu'on vient de dire. Enfin, on parle de Street Fighter, on parle de Red Bull. Red Bull vient de sortir une série limitée de canettes à l'effigie des 30 ans de Street Fighter. C'est beau, c'est très très beau. Oui. C'est introuvable.
Oui.
J'ai essayé. Ah bah. Je sais que j'ai appelé plein de gens.
Je sais pas si c'est beau ou flippant, sûrement les deux un peu. Mais
mais en petit objet de collection, je sais pas. Moi j'ai vu celle de Akuma là.
Oui.
Ça m'a un peu titillé.
Dans le même style, il y avait Rockstar aussi pour la sortie de Destiny qui avait fait la même chose avec la boisson énergisante. Concurrente de Red Bull avait fait la même chose pour la sortie de Destiny.
Tu peux citer la marque, hein, on n'est plus à ça.
Ouais, je dis Rockstar.
Mais non, mais pas la marque de la boisson.
Rockstar ? C'est un espèce de Monster.
Ah oui, d'accord, ok.
Et ils avaient fait l'effigie de Destiny pour la sortie, tout ça. Mais pareil, introuvable, hein, forcément.
En France, c'est pas forcément des trucs qui sont commercialisés.
Non, déjà Rockstar, t'en trouves pas beaucoup en France. T'en trouves beaucoup plus de Red Bull ou de Monster. Et c'était certainement, excusez-moi, États-Unis.
Hein. Ouais, ok. Qu'est-ce qui va se passer? La semaine prochaine, il y a le Paris Games Week 2017. Donc, pour petite info d'ailleurs, on offre 4 places pour aller à la Paris Games Week grâce à nos copains de chez Orange, Orange Place Kléber, Orange Grand Est. Hein, si vous nous écoutez, big up à vous et merci pour cette participation. C'est carrément cool. On vous offre 4 billets d'entrée pour la Paris Games Week. Donc, le jeu se passe sur Facebook et sur Twitter. Qu'est-ce qui va se passer donc à cette Paris Games Week? Donc, moi, je reviens de la Gamescom. Il y a eu pas mal de jeux qui ont été annoncés. Il y a eu pas mal de trailers. On va retrouver quasiment tout ça. Il y aura une nouvelle présentation, donc justement, du prochain Dragon Ball Z. On aura Call of Duty World at War 2 qui va être encore présenté, donc mis en avant sur cette scène. Il y aura la version... la version Doom sur Switch.
Ouais.
Doom, on vous encourage clairement, si vous avez plus de 18 ans bien sûr, à l'acheter parce que c'est une très 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 grosse boucherie. Et ça arrive donc ça arrive sur Switch aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Farming Simulator 2017.
Très très lourd aussi hein.
Exactement.
Plutôt que de faire des études là en agriculture, boum, Farming Simulator, vous saurez tout.
C'est presque ça. Il y aura aussi certains jeux qui sont déjà sortis comme Life is Strange, donc Before the Storm, qui va être encore présenté et jouable à ce moment-là. Marvel Capcom Infinite. Là, je voulais marquer un blanc pour histoire de rigoler.
On va vraiment en parler ?
Non, parce que ça me fait rigoler et que ça c'est ça. Par contre, tu vois, c'est des jeux morts dans l'âme. Tu vois, ils sont.
En plus, ils te filent une démo pour bien être sûr de pas l'acheter.
Là, tu te dis finalement, ça va être compliqué. Il y aura toute la partie NBA 2K, enfin 2K sera là effectivement aussi pareil pour présenter tous les jeux. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un jeu que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Sonic Forces par Sega, qui est franchement une très très grosse boucherie. Moi j'ai adoré, bon, ça, après c'est Sonic, mais là on a vraiment envie de jouer à tous les modes de Sonic, 2D, 3D, enfin c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah, je crois que c'est à peu
près... Il n'y aura pas un FIFA, non?
Bah, FIFA, ouais, si ça m'étonne.
Bah, cette Paris Games Week, à chaque fois, ils te présentent que des jeux qui sont déjà sortis quasiment.
Bah, le problème, c'est de venir après, justement, après la Gamescom.
Bah, mais pourquoi ils le placent ici aussi?
Après, ouais.
Après, il y a quand même Sony qui va faire une conférence ce lundi à 16h ou 16h30. Oui. Et ils ont dit, ils vont annoncer 7 jeux sur PS4 et PSVR. Il y en aura 6 sur PSVR, dont 5 dont on se fout. Mais voilà, Sony fera quand même sa conférence et il y aura bien sûr un résumé.
Ce sera un PlayStation Experience, hein.
Non, PlayStation Experience, c'est pour la fin d'année. C'est ça, c'est leur conférence qu'ils font à eux. Là, c'est juste une conférence pendant la Paris Games Week, donc 16h.
Okay,
de toute façon, il y aura un résumé sur le site, normalement ouais, dans la soirée.
Ouais. Lachroniquedugeek.fr.
Voilà.
Exactement. Je vous propose de faire un petit spot pub et d'écouter encore un petit morceau que j'ai choisi, parce que voilà, bon, j'en ai envie.
J'ai choisi.
J'insiste bien sur le j'ai choisi. On va s'écouter le premier stage de Castlevania Dracula X, parce que je suis en train de le faire en ce moment. Ce jeu est une très très grosse boucherie. Pareil, profitez-en avant... le 2 novembre, si mes souvenirs sont bons, vous avez tout le setup Castlevania disponible sur PS3 et compatible PS Vita sur le PlayStation Store à des prix complètement ridicules. C'est 3€ de jeu, ainsi que tous les Resident Evil et tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est pour la sortie, c'est pour Halloween. Et tu veux dire quelque chose, Théo?
Oui, Garou à 4,99€, pardon. Garou Mark of the Wolf.
Mark of the Wolf, ouais, ouais. Bah, n'hésitez pas. Ouais, c'est pas mal. Attends, je l'ai payé super cher, moi, à l'époque. je sais plus comment je l'ai payé. Bref, en tout cas, je voulais l'avoir en
Day One. Jeu de combat SNK, vraiment magnifique, très, très accessible pour ceux qui connaissent Street Fighter.
Voilà, la suite donc de Fatal Fury, donc Garou de
la réponse à 3.3 à l'époque.
Si ouais, les joueurs de ça. Street veulent des persos avec une palette de coups un peu plus grande.
Ils évoluaient.
Avec, SNK,
avec un très très beau jeu qui aujourd'hui même le jour où tu arrives à trouver un Mark of the Wolf sur Neo Geo, tu dois être l'homme le plus riche du monde, tellement ça coûte cher. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants et on va s'écouter donc l'OST de Castlevania Dracula X. À tout à l'heure sur RBS. On est de retour sur les ondes du 91.9 FM Radio RBS. Encore une fois, c'est pour l'émission Workless Play More by, by la chronique du geek. On va passer sur notre petite séquence qu'on apprécie beaucoup et qui vous permettra de découvrir donc pas mal de jeux. C'est la séquence À quoi tu joues. Et parce que j'ai vraiment bien kiffé l'OST de Castlevania, Vampire's Kiss, Dracula X, on va se le réécouter en entier cette fois-ci. Et en fond, voilà. On commence par qui ?
Moi, allez,
bah, allez vas-y,
moi.
Alors du coup, moi je vous parlais de deux jeux. Alors j'ai commencé par un jeu dont vous avez déjà parlé, dont même dans les news, c'est PUBG. Parce qu'il y a deux semaines, vous avez parlé de Fortnite en vous disant que j'avais moyennement apprécié le jeu. Et entre temps, je pense que j'ai dû ressaigner 20-30 heures sur PUBG parce que j'y joue tous les soirs et que ce jeu me prend beaucoup trop de temps, c'est affreux. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais un peu de mal avec Fortnite. En fait, c'est pour deux raisons essentielles. C'est déjà le dénivelé en fait de la map. Là où en fait Fortnite va avoir un dénivelé beaucoup plus simple, c'est-à-dire que où ça monte à 90 degrés, où ça monte à peine, où c'est plat. PUBG va avoir une map beaucoup plus naturelle et du coup qui va avoir des obstacles naturels aussi vachement plus intéressants. Aussi le fait de pouvoir se cacher dans l'herbe, etc. Enfin, je veux dire, vous pouvez courir, vous avez juste de l'herbe devant vous, vous voyez pas, mais en fait il y a juste un mec couché devant vous, il va d'un coup vous flinguer, vous avez rien vu. Ce qui je trouve vachement plus intéressant. Et du coup rend le jeu quand même un peu plus sympa sur le long terme. Et aussi surtout le truc que j'avais absolument pas dans Fortnite et que j'ai dans chaque partie de PUBG, même quand ça dure 2 minutes, c'est la tension en fait. J'ai pas envie de mourir. Parce que le truc c'est que là où Fortnite c'est un jeu vachement cartoon justement qui peut plaire à un plus large public, même si à côté le jeu s'est vendu 15 millions de copies, donc c'est quand même assez grand public. On est quand même sur un jeu, enfin on n'a pas envie de mourir, enfin c'est un jeu qui est un peu plus réaliste, un peu plus crédible, et il y a une tension mais 24 heures sur 24, enfin à chaque instant. Il y a une partie récemment, enfin je veux dire j'étais avec un pote, ça faisait 5 minutes qu'on rampait, qu'on flinguait des mecs dès qu'on en voyait un, et on avait à chaque fois peur de se faire capter justement parce que les mecs allaient entendre d'où on tire, etc. Et c'est une tension qui est pas possible, et c'est juste pour cette tension que je joue à PUBG, j'ai capté.
Alors si moi je peux juste rebondir là-dessus, j'ai jamais joué à PUBG.
Oui,
parce qu'il est payant.
Et parce qu'il est sur PC.
Mais j'ai essayé Fortnite sur la PS4, qui est donc gratuit. Enfin, la version Battle Royale est gratuite.
C'est free-to-play, que ce soit PC, PS4 ou Xbox.
Voilà, exact. C'est multiplateforme. Et dans mon premier jeu, donc j'étais seul, je me retrouve sur la map là, être balancé avec 100 autres personnes. Et à un moment, je vais dans une maison. Et putain, là, j'entends les bruits de pas comme ça. Je me dis putain, il y a un gars autour de moi. Et là, j'ai flippé. Malgré le mode cartoon et tout, etc. Toi, c'est peut-être parce que t'as joué à PUBG avant,
depuis,
t'as pas trouvé ça.
J'ai une centaine d'heures, oui, que j'avais un peu d'expérience.
Mais moi, j'ai retrouvé ça, trop. Tu vois, vu que je connaissais pas PUBG et que Fortnite, ouais. Je découvrais, j'ai aussi retrouvé ça.
Fortnite reste pas un mauvais jeu du tout. Si on connaît pas les Battle Royale, c'est même un très bon jeu et on peut accrocher. Et ça peut même on peut se permettre de découvrir le style de jeu Battle Royale et du coup accrocher à PUBG, que ça soit sur PC ou bientôt sur Xbox One et un jour sur PS4, ils l'ont dit. Mais non, voilà, donc j'ai vraiment réussi à mettre des mots sur pourquoi je kiffais PUBG. Mais sinon, je vais vous parler d'un autre jeu que j'ai fait récemment. Alors sur émulateur, mais pas sur un émulateur classique, j'ai fait sur un émulateur.
Switch.
Non, PS3.
Non, j'ai fait là. Bah, tiens, regarde ce que la Switch elle fait là.
Oui, parce que maintenant, l'émulateur PS3, en fait, il a fait pas mal d'avancées. J'avais envie de tester sur ma bécane qui a pas un processeur de fou, et c'est ce qui bouffe beaucoup sur un émulateur. Ça tournait, et c'est le jeu qui tourne le mieux dessus, et c'est un jeu que j'avais envie de faire depuis très longtemps, c'est Catherine.
Ah oui, et Catherine que l'on retrouve aussi en pas cher.
Oui, qu'on trouve très souvent pas cher justement sur le sur PS3 ou 360, donc c'est sorti sur ces deux machines. Du coup là j'ai fait la version PS3 émulée. J'avais quelques bugs de son et des fois ça plantait, mais bon c'est de l'émulation, c'est encore récent, ça va. Mais alors du coup qu'est-ce que c'est Catherine ? C'est un mélange de entre guillemets de visual novel et de puzzle game. En fait on va jouer Vincent, c'est un homme de 32 ans qui est en couple avec Catherine avec un K depuis un moment. D'ailleurs, elle pense à se marier, elle pense à avoir des enfants. Et lui, il est dans cette période où il se pose la question de « Est-ce que j'ai envie de me marier ? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ? Est-ce que j'ai encore envie de rester avec elle ?» etc. Et c'est à cette même période. Et du coup, ça, c'est les phases de jour, en fait. Et du coup, on va se balader. On va avoir des dialogues avec nos amis dans un bar. C'est là où on va pouvoir un peu se balader, régler les soucis des autres, etc. Avoir des choix moraux. On va répondre à des SMS, à Catherine avec un K, mais aussi à une autre Catherine dont je parlerai après.
Et spoil. Ouais, spoil.
Bah, c'est un spoil qui est dans les premières heures et c'est sur la jaquette, et le jeu s'écrit Catherine avec un C, donc on comprend tout de suite qu'il y a un souci. Parce qu'en fait du coup Vincent va tomber très vite sur en fait une jeune femme qui s'appelle Catherine, qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus libre, et qui va avoir une aventure en même temps alors qu'il est censé être en couple et quasiment demander sa nana en mariage.
Ouais, c'est un mec quoi.
Et justement, en fait, mais en fait justement, ça, c'est un propos vachement intéressant du coup sur la trentaine, sur le fait de devenir entre guillemets adulte et responsable et de, d'avoir une vie de famille. Et à côté,
ça a 40 ans ça. Bah, tu fais pas ça à 30 ans.
Bah, je crois qu'on peut faire ça à 30 ans aussi. Et en même temps, on a des phases de puzzle la nuit. Où en fait, on est, c'est un cauchemar qu'il fait tous les soirs. Où il a des cornes de bélier en fait. Et on va devoir monter une tour qui s'écroule petit à petit. En fait, on va devoir bouger des blocs pour essayer de monter. Faites le jeu en facile. Vraiment, si vous n'êtes pas doué un puzzle game, faites le jeu en facile. Il n'y a aucune honte. Vraiment. Même il y a un mode très facile. Si on appuie sur, pendant toute l'introduction sur back, il y a le mode très facile qui se débloque. Ça peut être intéressant si vous êtes vraiment très mauvais. Après, je suis pas spécialiste des puzzle games. Genre, dans les Zelda, je dois toujours garder une solution à un moment ou à un autre parce que je suis vraiment une grosse brêle. J'ai quasiment réussi à faire le jeu sans aide. Mais du coup, ouais, on va aussi avoir pendant ces phases-là, entre deux énigmes, en fait, entre deux phases d'énigmes, on va avoir un plateau où il y aura d'autres moutons. Et en fait, on va se rendre compte par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à leurs attitudes, même à leur physique, en fait. Ah, mais en fait, c'est lui que j'ai croisé dans le bar. Et en fait, du coup, c'est ça, ses soucis, etc. Et c'est un jeu qui est super bien écrit. J'ai eu un coup de cœur, mais phénoménal. Je l'ai torché en 2 jours et demi. Le jeu fait quoi, 8 heures. Mais c'est un énorme kiff. Faut aimer les jeux narratifs. Faut pas forcément aimer les puzzle games, mais faut aimer les jeux narratifs avec des choix. Il y a 8 fins différentes. La fin que j'ai eue m'a un peu attristé, mais je la méritais totalement. Je n'en dis pas plus, mais non, il y a.
Qu'est-ce que t'as fait avec Catherine encore?
Bah, justement, c'est avec
pas
Catherine
spoil,
avec un C ou avec un K. Mais
voilà,
justement, non, mais
pas de quoi,
il faut vraiment faire ce jeu. Enfin, si on kiffe un peu les jeux à narratifs, c'est vraiment un must-have. C'est fait par Atlus, ceux qui font les Persona, et ça se ressent. Et je crois que c'est le seul jeu Atlus avec des sous-titres français, donc faites-le s'il vous plaît, quoi. Juste. Voilà.
En attendant, donc le jeu, on le retrouve, hein, comme dit encore, sur
PS3.
Ouais, sur le PSN, je crois que je l'ai payé 5 euros.
Ouais,
même pas.
Il est tout, à chaque solde, il a 5 balles.
Ouais,
fait.
C'est ça.
Si vous avez une PS3
vraiment...
qui traîne, franchement, faites-le, ça vaut le coup. Rebranchez-la, payez-le 5 euros et faites-le.
Et si vous avez une version physique du jeu, je suis acheteur, voilà.
Ouais, parce que
ça fait longtemps que je
parce
cherche.
Parce que ça coûte une blinde.
Bonjour, bienvenue sur Le Bon Coin.
Ouais, c'est ça.
Non, ça. Par contre, ça coûte vraiment
nouvelle
une
rubrique RBS. On pourrait faire ça.
Ah ouais,
le jeu, c'est vraiment pas vendu et c'est vraiment dommage, mais. Et il y aura peut-être d'ailleurs une suite à Catherine, parce que à toute introduction du jeu en fait, parce que c'est le Golden Theater, donc le théâtre doré, il y a une nana qui fait introduction, qui nous présente ce que ça va être l'histoire, face à une télé, etc. Et en fait, ils ont fait un tweet ou un message dans une vidéo avec cette nana en disant qu'elle allait de nouveau représenter un show. Alors on ne sait pas si c'est un Catherine 2, mais ça va sûrement être un jeu dans la même veine, un peu puzzle game et un peu visual novel, et du coup je suis hypé de fou en fait. C'est
très très gros hit, enfin pour les, c'est bizarre.
Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir un certain âge pour y jouer. Je pense que si on a 15 ans, on va pas forcément comprendre tout le jeu, mais quand on approche de la une bonne vingtaine, voire la trentaine, voire plus, là je pense que ça peut être très très intéressant. On peut apprendre des choses sur soi-même.
Selon ses choix.
Ah bon?
Voilà.
Il faut faire ce jeu en couple ou pas?
Non. Okay. Par contre, ça peut être compliqué à certains moments. Donc non, je conseille pas. Je conseillerais pas.
Ok, bon, bah, on passe à Raph. Raph, tu joues à quoi?
Moi, j'aimerais bien passer en dernier, s'il vous plaît.
D'accord,
parce que
ok,
je vais
bon,
faire
c'est
un petit truc.
C'est ton émission,
freestyle.
N'est-ce pas? Pardon.
Workless Play Raph.
Bon, on va passer à Théo. Théo, tu joues à quoi en ce moment?
Alors moi, en fait, je sais pas si j'ai déjà parlé pendant cette émission d'un jeu qui s'appelle Path of Exile. En gros, c'est un Diablo-like, donc c'est vraiment comme Diablo, mais au lieu de se rapprocher du récent Diablo 3, ça se rapproche beaucoup de Diablo 2. En fait, c'est-à-dire que ce qu'ont reproché les gens à Diablo 2, c'est le manque d'arbres, l'absence d'arbres de compétences. Vraiment intéressant. On débloque en fait toutes les compétences, on ne se met pas dans une voie. On se met pas dans une voie et un chemin qu'on prend au niveau des compétences actives et passives. On les débloque toutes et on peut un peu s'amuser. C'est un petit côté un peu arcade, mais bon, même si Diablo 3, c'est un très bon jeu. En plus, je veux même pas parler de Path of Exile, mais je dis ça parce que j'ai lancé une partie de Path of Exile il y a pas longtemps en hardcore. Ceux qui savent ce que c'est que le mode hardcore dans les Diablo-like me comprendront. Vous commencez un personnage, peu importe son niveau, s'il meurt une fois, il est mort, on ne peut plus jamais le jouer. Plus jamais, c'est terminé.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est...
Plus jamais.
C'est punitif.
J'ai perdu une sorcière, pas niveau très haut, dans Path of Exile. J'étais très triste, j'ai phasé pendant à peu près deux minutes sur mon écran. Sans mentir, vraiment,
j'ai cru qu'il allait dire que je suis pas sorti de chez moi pendant deux jours.
En plus, généralement, quand on perd des persos hardcore dans ces jeux-là, c'est de manière extrêmement idiote et c'était le cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de recommencer une partie de Path of Exile, je me suis payé un autre Diablo-like qui s'appelle Grim Dawn. Alors, il me semble que c'est un studio indépendant qui le fait. Et Grim Dawn, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble énormément à Diablo, comme tous les Diablo-like, ça va de soi, mais comme tous les hack and slash en règle générale. C'est-à-dire que c'est un univers dark fantasy dans lequel vous allez avoir un scénario assez basique de monstres qui envahissent la Terre et tout, etc. Et dans lequel vous allez devoir affronter des hordes de monstres avec votre perso que vous faites évoluer au fur et à mesure avec des nouvelles armes, de nouveaux équipements, etc. Avec un système de loot extrêmement riche. Avec un système de couleurs, en fait, comme dans Diablo, plus la couleur tend vers le orange, je crois, plus les légendaires, ça va de... Il y a un code couleur, en fait, c'est vert, bleu, orange, etc., ce qu'on retrouve dans beaucoup de hack and slash et qui vient de Diablo. Et en fait, celui-là est vraiment intéressant, parce que le système de jeu, en fait, pousse à prendre une classe. Donc moi, au début, j'ai vu qu'il y avait des armes à feu, j'ai fait, bon, je fais une classe arme à feu directe. J'aime bien les persos à distance dans ces jeux-là, et là j'ai fait un perso arme à feu. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, c'est que vous avez à peu près 6 ou 7 classes, et en fait, vous ne choisissez pas une classe, vous en choisissez deux. En fait, c'est une combinaison de deux classes que vous faites. C'est-à-dire que moi j'ai fait un occultiste et donc un démolitionniste, ils appellent ça. En gros, c'est un mec qui tire au fusil, qui joue des cocktails Molotov, qui jette des flashbangs, etc. Et en même temps, j'ai des sorts qui empoisonnent les ennemis, qui les débuff, qui les font saigner et tout, etc. Ça donne une combinaison assez sympa. Et en fait, la combinaison des deux s'appelle pyromancien. En gros, celui qui utilise le feu et qui fait de la magie en même temps. Avec. Et vous avez des combinaisons comme ça entre toutes les classes. Il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça, voire 8. Et le jeu est vraiment intéressant là-dessus. C'est la plupart des compétences actives en fait, que vous débloquez avec les deux classes que vous utilisez. Et il y a un système en fait, de compétences passives avec des constellations. Donc vous en avez, vous devez bien avoir une trentaine. Et en fait, vous avez des points spéciaux que vous débloquez quand vous trouvez des sanctuaires. Et ces points-là, vous les mettez en fait dans des constellations que vous complétez ou non, et ça constitue vos passifs. Et c'est vraiment sympa, il y a vraiment une partie graphique un peu dans l'attribution des points, des passive skills, c'est assez chouette. Et voilà, le jeu est très très long. Malheureusement, l'univers n'est pas hyper attachant parce qu'il est calqué sur ce qui se fait beaucoup dans les hack and slash. Mais c'est toujours agréable de monter son perso de niveau, de commencer à bien se stuffer, de crafter des items et tout, etc. De voir un petit peu ce qu'on peut faire. En gros, ce que vous allez rapidement faire, c'est clic droit compétence d'une classe et clic gauche compétence de l'autre classe. Quoi. Donc, moi, en gros, là, ce que je fais, c'est que j'ai un debuff sur les ennemis, donc je leur balance un truc qui les affaiblit et je les avoine au fusil de sniper en fait, en leur jetant des flashbangs et des cocktails Molotov et voilà. C'est assez inédit ça dans un hack and slash. C'est pas forcément évident de gérer avec cette classe là les hordes d'ennemis, etc. Mais bon, c'est vraiment le genre de jeu qui peut vous faire phaser pendant un moment et qui est quand même vraiment agréable à jouer parce qu'ils se sont donné du mal pour créer un système de jeu. Oui, Pierre?
Juste à dire que c'était les mecs qui avaient fait le Titan Quest, qui ont fait Grim Dawn, donc c'est un peu des mecs qui avaient un peu roulé leur buzz dans le hack and slash et qui gèrent un peu ça, quoi.
D'accord. Eh ben, je ne savais pas du tout. Je connais Titan Quest, mais de nom. Et sinon, à quoi je joue d'autre? Je joue à un autre petit jeu qui s'appelle Strike and Sisters, qui est un jeu indé encore. C'est un casse-brique, en fait, avec des ennemis qui viennent vous attaquer au fur et à mesure. Et pour que les ennemis ne spawnent plus, il faut casser toutes les briques. Et c'est assez sympa, il y a des furies, on peut balancer des balles en feu et tout, etc. pour qu'elles détruisent les blocs plus rapidement. Il y a un style très 16 bits, SNES, c'est assez rigolo. Voilà. Et j'ai acheté Nier Automata que j'ai pas encore commencé.
Là, franchement, tu vas passer du temps.
Ouais, non, je m'en
doute. Il est ouf ce jeu. Il est ouf. Bah tiens Nico, tu joues à quoi? Bon, on vient de te voir.
Ah bah là, attends, ça fait une demi-heure qu'il joue à Mario Odyssey.
Il est en train de ranger sa Switch tranquillement comme si de rien n'était. Tu joues à quoi là en ce moment?
Alors, juste avant, j'aimerais m'excuser pour le bruit de paquet d'M&M's depuis avant qui tourne dans le studio.
Sinon, regarde, on peut faire comme ça. Voilà. Donc tu joues à quoi là en ce moment?
Alors ben forcément Mario Odyssey que j'ai acheté ce matin. Ça a l'air d'être une petite bombe. J'avais pas fait de gros Mario depuis un certain temps. Le dernier que j'ai fait à fond, c'était Mario 64. Ceux qui ont suivi Sunshine, Galaxy et tout, je les ai pas trop trop torché, on va dire. J'ai un peu joué pour voir ce que ça valait, mais et là le gros retour de Mario, je pense qu'il est bien réussi parce que le jeu a l'air vraiment énorme. Il y a vraiment il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de choses à explorer dans les différents mondes. Le nouveau pouvoir avec la petite casquette, c'est franchement rigolo.
Je viens de voir, tu l'es pas. Je passe sous un tunnel, pardon. J'ai regardé un peu pendant que tu jouais, les maps ont l'air immenses.
Ouais,
par rapport aux autres Mario que j'ai connus.
C'est du jeu ouvert ou pas?
Alors c'est pas vraiment un gros univers ouvert, mais tu passes de grandes maps en grandes maps qui sont assez grandes, où il y a beaucoup de petits secrets à découvrir. C'est plus des étoiles qu'on cherche maintenant, comme dans Mario 64. J'ai pas fait les autres, je me rappelle plus trop ce que c'était.
C'était toujours les étoiles, jusqu'à Mario Odyssey. Mario Galaxy.
Là, c'est des lunes, donc ils ont changé un peu le délire. Donc il y a plein de lunes à trouver dans chaque stage. Donc c'est vraiment, il y a un côté exploration qui est toujours réussi dans les Mario et qui est toujours au rendez-vous ici. Et le nouveau pouvoir avec la casquette magique là, c'est vraiment énorme parce que tu l'as fait interagir avec vraiment beaucoup de choses que tu vois dans le décor.
Ouais, donc en fait, tu lances la casquette sur un truc et du coup ça te permet de
prendre possession. Et tu fais ça avec des ennemis, mais direct je fais un petit spoiler, mais c'est tout de suite le premier stage, c'est la première chose que tout le monde va faire. Mais t'arrives, premier stage, il y a un T-Rex qui dort et qui est modélisé à la cartoon Mario, univers Mario. T'as vraiment un T-Rex qui a la gueule d'un T-Rex. Tu lui balances la casquette dessus et tu contrôles le T-Rex derrière et tu fous un bordel.
De toute façon, t'en avais dans les pubs, on voyait le T-Rex avec la casquette.
Donc ça a l'air vachement intéressant. Donc je pense que c'est le jeu auquel je vais beaucoup, beaucoup jouer dans les prochains temps. Cuphead, comme je disais avant, je dois être à pas loin de 30 heures de jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste mais une tuerie. Alors attention, c'est difficile.
Ouais, c'est ça.
Skill. Là, je suis en mode expert, c'est bien, très, bien, très bien, 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 voilà. bien tendu. Mais c'est un jeu qui est juste magnifique, qui a le design des cartoons des années 30. Donc ça va parler tout de suite à toutes les générations parce que même pour ceux qui regardent et qui jouent pas, c'est juste génial parce que les mimiques des ennemis, des gros boss fights et tout, enfin c'est énorme. Demain, j'ai une grosse soirée geek à la maison avec mes anciens collègues à qui je passe un petit big up. Où on va se taper dessus sur pas mal de jeux de baston et de versus fighting.
C'est propre, c'est très beau ça.
Voilà, il va y avoir du Windjammer, je pense un peu. Il y aura du Twinkle Star aussi. Un peu de Killer Instinct peut-être.
Oh, et le mec m'invite pas, ça c'est pas. il m'a regardé droit dans les yeux, on fait ouais, tiens, on va jouer à Killer Instinct.
Tu sais que ma porte est toujours ouverte à toi.
Ah, c'est sympa.
Donc si tu n'as rien de prévu demain soir.
Tant bien.
et donc voilà, ça c'est les deux gros jeux sur lesquels je passe du temps. Et sinon, ça serait bien que j'arrive à finir Zelda, parce que je comptais pouvoir le finir avant la naissance de mon fils, mais comme il a eu la bonne idée de venir 6 semaines plus tôt, une semaine après la sortie de la Switch et de Zelda, je suis à 100 heures de jeu, mais je n'ai toujours pas fini, donc big up à ma femme et mon fils également. Mais sinon, voilà, et sinon j'aime bien aller sur Twitch, regarder mon frangin qui a une petite chaîne qu'il a démarré il n'y a pas longtemps, donc petite dédicace au frangin. Sa chaîne, c'est Maurice67. Alors, Maurice écrit un peu bizarrement.
C'est parce qu'il est mauricien ?
Non. il s'appelle Amaury et on l'appelle Maurice depuis qu'il est petit. Donc, c'est Maurice67. Et il joue beaucoup à PUBG, il joue beaucoup à Rocket League. Il se fait aussi des défis à la con que des viewers lui lancent. Là, il s'est fait récemment Devil May Cry 3 Special Edition au clavier.
Tout nu.
non, au clavier, dans tous les niveaux de difficulté. Donc,
tenu au clavier sans les mains.
Voilà, donc c'est un bon nerveux. Il joue beaucoup, donc allez voir sa chaîne, c'est pas mal. Et donc voilà, c'est les deux gros jeux que je vais vraiment dégommer bien.
Vraiment dosé, ouais. Pas mal. Bah pour ma part, parce que Rav veut absolument passer en dernier, donc ouais. Je sais pas pourquoi.
Mais bon, bref. Content.
Moi j'ai découvert un jeu qui est en train de me rendre dingue. Et franchement, là je fais appel à tous les gens. Qui font du shmup.
C'est Street donc, Fighter.
version. Non, à tous les gens qui font justement du jeu de tir okay. Avec des petits avions et tout ça. Ça s'appelle Skyforce Anniversary. C'est actuellement sur PS4 en mode gratuit.
Oui.
Je l'ai téléchargé histoire de dire, voilà, je l'ai pris. Mon dieu, mais c'est une boucherie
Il est génial, hein.
Il est totalement ouf. Je n'arrive pas à décrocher de ce jeu tellement il est dingue. Et en plus, c'est gratos ce mois, donc faut vraiment en profiter. Au pire, vous y jouez 5 minutes, mais vous l'avez téléchargé.
Ah bah, j'ai le DL direct en rentrant, parce que du shoot d'ME, tout.
Ouais, bah voilà, exactement.
On est d'accord.
On est d'accord.
Plus, c'est refait, il a été remasterisé. Ouais. Vraiment
il est très
beau.
Très beau. Et c'est vraiment très prenant, parce qu'en plus, t'as plein de quêtes. Bon, c'est toujours les mêmes quêtes dans chaque mission, mais c'est un truc à se tirer les cheveux, parce que c'est des boulettes dans tous les sens. C'est très très dur. Arrivé à un certain niveau du jeu, ça devient très
déjà
dur.
Le premier niveau, hein. Moi, je l'avais téléchargé en même temps que 2-3 autres jeux.
Ouais.
J'avais joué un petit quart d'heure comme ça, juste pour tester et tout. J'ai fait, faudra que je m'y remette plus sérieusement plus tard.
Franchement,
je vais retourner dessus, hein, mais j'ai déjà kiffé le quart d'heure que j'ai fait.
Ouais, bah là, j'en suis. Je peux même pas dire combien d'heures, parce que voilà, je
c'est Skyforce, c'est ça?
Skyforce, ouais, Skyforce, 30e anniversaire.
Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est une grosse boucherie, et franchement, même le niveau, il y a un niveau, comment ça s'appelle, le premier, enfin, tu sais, tu as quatre trucs à faire par niveau.
Oui.
Et une fois que tu finis les quatre objectifs, tu as le même niveau qui recommence, mais en mode hard, et tu refais les quatre mêmes trucs, donc en sachant qu'il y en a un où un des défis, c'est ne pas se faire toucher une seule fois de toute la partie. Ça, c'est ouf. Et ensuite, une fois que tu as fait les quatre, tu as encore un mode qui s'appelle le mode déjanté. Mais là, mon pote, bon courage. Parce que là, j'y suis, hein. Et je pète un plomb. C'est impossible.
Et par rapport à Ikaruga?
Non, mais Ikaruga, ça reste la... Oh non. Ikaruga, t'es au-dessus de Dieu avec ce jeu. Non, c'est très... Ouais, Ikaruga, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe.
Okay.
Parce que t'as ce système de stance où tu changes en bleu ou en rouge, que tu ne retrouves pas sur un shmup comme celui-là, qui est beaucoup plus simple, hein. Tu tires, classique, tu gagnes des étoiles, les étoiles te permettent d'acheter des nouvelles armes, ou de l'amélioration pour ton arme, enfin pour ton vaisseau, et ça, c'est vraiment cool. C'est pas du Ikaruga, hein, clairement. Je pense que les joueurs d'Ikaruga vont s'ennuyer là-dessus.
Okay.
Mais non, ça reste très très propre, et puis surtout c'est gratos.
C'est toujours un bon shoot 'em up, c'est toujours un plaisir, même
ouais,
si la
et
difficulté
puis,
est
et
pas
il est,
trop...
Il est multiplateforme, donc tu peux télécharger sur PS4, sur PS Vita et sur PS3.
Okay.
Donc par exemple, tu vois, moi j'ai joué sur PS4, il se faisait tard, j'ai fait bon bah je vais peut-être arrêter de jouer. Je suis allé dans mon pieu et puis à côté de moi il y avait ma PS Vita, parce que en ce moment bah ça c'est le deuxième jeu dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai commencé à lancer, j'ai rallumé ma PS Vita et j'ai recontinué ma partie que j'avais mis en stand-by entre guillemets sur PS4. Donc du coup tu t'arrêtes jamais de jouer en fait, peu importe où tu peux jouer à ce jeu. Le deuxième jeu que je fais en ce moment, bah voilà, la semaine dernière je vous avais proposé d'acheter toute la panoplie des jeux Castlevania qui sont actuellement donc toujours sur le PSN pour 3€ par jeu, et je suis donc en train de faire Dracula X Chronicles, qui est une compilation entre guillemets de Castlevania Vampire's Kiss.
Théo,
vas-y, attention, Théo,
Théo
il est chaud. Non mais vas-y. Je te sens venir.
Pas du tout.
Vas-y. Ok, d'accord. Et franchement, c'est très très hard. Mais vraiment, moi qui ai l'habitude de jouer au Castlevania, là j'en prends pour matricule. C'est saut millimétré. Tu te plantes dans une des armes, tu te bouffes le crâne parce que tu as laissé tomber une fiole alors que tu aurais dû avoir le boomerang. Enfin bref, t'as des passages qui sont infaisables. Et franchement, je prends un kiff total sur ce jeu. Par contre, c'est vraiment réservé aux gens qui ont les nerfs à vif. Tu peux mourir 50 fois avant de passer un niveau. Facile.
Ouais, c'est bon, je suis sur Capel, je peux tester ton jeu, quoi.
Ah, tu peux, ouais, tu peux, ouais, carrément.
Non, Castlevania XX, en fait.
Ouais, c'est XX, ouais, exactement, voilà.
S'appelle. Enfin, en tout cas, en version Jap. C'est un très, très bon Castlevania. Enfin, on va dire un très bon Castlevania, pas un très, très bon, parce que bon, on est de toute façon au-delà du bon et du très bon dans,
ouais,
Castlevania. Mais oui, c'est un jeu qui est d'ailleurs, pour l'anecdote, extrêmement rare à se procurer en PAL sur Super Nintendo. Ça vaut, vous mettez au moins plus de 150 balles.
Ouais, 150€ à peu près, ouais. Et donc en Europe, ça s'appelle justement Castlevania Vampire's
Kiss. Voilà, exactement.
Ouais. Et même en Jap, hein.
Non, justement, c'est XX en Jap.
Ouais, mais pour en avoir un.
C'est bisous, bisous.
C'est bisous, bisous, voilà.
C'est Akumajo Dracula.
Bisous, bisous du vampire.
Dracula XX.
Et oui, c'est un jeu qui est vraiment excellent, notamment pour sa musique, qui est, je pense, une des meilleures musiques de la Super Nintendo qu'on a écouté avant.
On va
peut-être même
ça.
Réécouter maintenant.
Qu'on est en train d'écouter depuis. Ouais.
Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les gens ont été un peu. Certains joueurs ont été un peu déçus à l'époque, et même rétrospectivement, on peut un peu s'interroger sur le jeu, parce que, en fait, 2 ans avant, il y a un Castlevania qui est sorti, qui est très méconnu en Europe, et pourtant, c'est un des meilleurs, c'est un des plus beau au niveau de la musique, etc. Des, il y a même des cinématiques, etc. Et pour cause, c'est un jeu sur PC Engine CD.
Oui.
CD-ROM 2.
Oui.
Qui, alors, inutile de dire que la PC Engine chez nous, c'était extrêmement mal distribué et que le, l'add-on CD, je crois qu'il a même jamais vu le jour chez nous. Et en fait, c'était un Castlevania qui était mais absolument magnifique, avec un gameplay encore meilleur que ce qui a été fait 2 ans après avec le Castlevania dont on parle tout
à l'heure. Ouais.
Et qui a une musique absolument, enfin encore mieux parce que c'était sur support CD, donc la musique, il n'y avait pas du tout de problème de compression, etc. à mettre dans une cartouche, donc la musique, elle était vraiment nickel. Avec des cinématiques en mode animé japonais, avec c'est Richter Belmont, si je me plante pas,
c'est Richter.
Et en fait, Castlevania XX et Vampire's Kiss, dont on vous parle tout à l'heure, c'est certes un excellent jeu, mais c'était un peu une version tronquée de la version Rondo of Blood.
Sur PC Engine à l'époque.
Sur PC Engine, sur CD-ROM, voilà. Alors inutile de vous dire que ça, vous prenez le prix de Vampire's Kiss qui est à peu près 200 balles et vous multipliez par 2. Surtout si vous voulez acheter l'add-on CD et la PC Engine qui va avec.
Ouais, PC Engine, on trouvait pas trop cher encore. Hein.
Ah, moi j'ai acheté la mienne à Little Tokyo à l'époque. Je crois que j'ai dû la payer 80€.
Ouais, j'allais dire ça tourne.
C'est une Core Graphics en fait.
Ouais, c'est une Core Graphics, ouais. C'est, modèle, ça tourne aux alentours de 80-100€ effectivement. Ouais.
Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas. Parce que là, ça fait peut-être 10 ans que j'ai acheté.
Non, ça reste.
On fasse une émission spéciale PC Engine. C'est une super console. Ah ouais, pourquoi pas. Complètement méconnue. C'est une console de NEC. En fait, qui était un fabricateur de consoles, fabricant. Merci beaucoup. Je suis fatigué. Tu sais.
Pierre, il a pleuré.
Et qui était un fabricant de consoles ou un fabricateur, c'est comme je veux.
Bon, l'émission.
Une console qui est sortie en 87 et qui était plus puissante à sa sortie que la NES. Alors, j'allais dire que la Mega Drive peut-être pas, parce que ça restait une 8 bits la PC Engine, mais qui était extrêmement puissante, qui a été très mal distribuée en France pour une raison que je ne connais pas. Qui était distribué par une société qui n'était pas du tout officielle, qui s'appelait je ne sais plus comment, il faudrait faire des recherches.
T'es sûr que c'est pas aussi puissant qu'une.
Non, c'est pas aussi puissant qu'une Super Nintendo par exemple.
Parce que de tête, il y a eu Street Fighter 2.
Et Street Fighter 2, elle était excellente la
Champion
version.
Champion Edition.
Mais elle n'était pas aussi bonne que.
Ah voilà, donc c'est pour ça. Donc ça reste quand même une console techniquement qui arrive à émuler, arrive à jouer.
Elle était vraiment à la charnière entre le 8 et le 16 bits.
Ouais,
alors que c'est une console 8 bits. Hein.
Ouais.
Et c'est aussi donc en fait les jeux comment ils se présentent, c'est une toute petite console toute carrée et en fait les jeux comment ils se présentent, c'est des espèces de cartes téléphoniques en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça ressemble vraiment à des cartes téléphoniques et ils étaient numérotés en fait, il me semble.
Des cartes bancaires pour ceux qui n'ont pas
connu les cartes. Ils avaient un partenariat avec Hudson, donc il y avait beaucoup de jeux Hudson dessus et en fait les jeux étaient numérotés, donc pour collectionner les jeux, c'est juste génial.
Fallait tous les avoir, ouais, exactement.
Voilà, c'est vraiment terrible. Ils ont très bien compris le marketing déjà à cette époque-là dans le jeu vidéo.
Je pense qu'en fait non, je suis même pas sûr que c'était vraiment pour ça en fait, hein.
Ah, je pense qu'à mon avis, il y avait un côté justement, ah, faut que je les ai
tu
tous,
crois
j'ai pas le numéro ouais, 3, peut-être. Je sais pas ce que c'est un jeu pourri, mais je m'en fous, je veux le numéro 3.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est peut-être possible, ouais, possible.
C'est la première console, en fait, à avoir vu un support CD dessus de l'histoire. Vraiment.
Ouais.
C'était pas la PlayStation, c'était pas la Panasonic CDI, ce que vous voulez.
CDI, ouais.
C'était la PC Engine et son support CD. C'est la première console de l'histoire à avoir eu des jeux sur CD. Voilà, rien que ça, ça force le respect. Et renseignez-vous un peu sur la PC Engine si vous ne connaissez pas, c'est terrible.
Si vous avez un peu de soin à investir, n'hésitez pas à en chercher une sur le Bon Coin, il n'y en a pas, c'est sûr. Par contre, sur eBay.
Oh, si. Sur le Bon Coin, il doit y en avoir.
Ouais, il doit y en avoir. Mais moi, j'ai failli en acheter une il n'y a pas longtemps d'ailleurs, justement. Et un mec, ouais. Il a vendu 50 balles, mais HS. Je me dis, est-ce que j'investis ou pas? Oui, non,
alors,
peut-être.
Justement, à propos de HS, faites attention. Là, c'est le coin technique sur la PC Engine. La PC Engine, vous la trouverez pas en fait avec un adaptateur secteur européen.
Ouais.
Il vous faut un transfo 110-220. Voilà. Sinon, la PC Engine, vous allez la brancher avec un adaptateur tout simple et vous allez la flinguer. Voilà.
C'est ça.
Voilà, c'est tout pour la PC Engine.
La semaine prochaine, nous parlerons de la Super Famicom. j'ai repris donc ce fameux Dracula XX, donc Chronicles, qui est Akumajo Dracula XX. Donc franchement, c'est du pur plaisir, c'est du jeu 2D, c'est très beau. En plus, avec des petites séquences animées hein, en vidéo. Franchement, moi j'apprécie beaucoup, parce que voilà, l'univers Castlevania, c'est toute ma jeunesse, j'ai envie de dire. Et puis sinon, je crois que c'est à peu près à tout ce que je joue en ce moment. Et toi, de ton côté, Raph?
Bah écoute, moi, comme dit, en ce moment, je joue, j'essaie de jouer à Destiny 2. Comme je disais, à Speedrunners aussi, qui a la démo gratuite sur PS4, qui est en solde à 4,99€ au lieu de 9,99€. Super Mario Odyssey, ça, ce sera sûrement demain. Faut que j'aille le chercher encore. Et je voulais un peu vous demander aussi, plutôt, à quoi vous avez joué. Le Mario qui vous a le plus marqué, pour fêter un peu la sortie de Mario. Moi, apparemment, Nico aussi, c'était Mario 64. Premier passage à la 3D, sorti en 96 sur la Nintendo 64. Hein. Franchement, ce jeu était énorme, le monde était ouf. Le fait de pouvoir se balader dans le château et de traverser les tableaux, pour se retrouver dans des mondes différents et tout, c'était vraiment, vraiment énorme. Durée de vie, j'y jouais mais des heures entières. Et pour avoir les 120 étoiles, 121 étoiles
120,
il n'y avait pas la...
Non, ok. 120.
120 étoiles, c'était la folie. Donc voilà, Théo, je vois que tu as envie de réagir. C'était quoi ton Mario?
Moi, c'est Super Mario 3 sur NES. Il était hyper long pour l'époque. Les niveaux étaient variés. Il y avait plein de secrets partout. Il y avait
les flûtes.
C'était pas linéaire. On pouvait faire. Toute proportion gardée, quoi, parce qu'on pouvait choisir entre deux niveaux. Quoi. Ouh, incroyable. Il y avait des passages à bloquer dans la world, à débloquer dans la world map. Des fois, on faisait des rencontres avec les frères Marteau et tout. C'était excellent, Mario pouvait se transformer en grenouille, en raton laveur complètement pété, c'est né dans Super Mario 3. Enfin, c'est vraiment mon Mario préféré. De toute façon, pour moi, Mario est mort avec la 3D. Voilà, bonne soirée.
Non, mais il a pas tort, il a relevé un très très beau...
Mario est rené avec la 3D.
Oui, parce que les Mario 2D aujourd'hui, désolé, mais c'est pas comme s'ils avaient épuisé la formule depuis tellement longtemps, qu'ils savaient plus quoi faire, qu'ils ont fait un Mario Maker en disant « Allez les joueurs, faites ce que vous voulez, parce que nous, on sait plus quoi faire ».
Avec la 3DS, ils l'ont tué Mario 2D. Hein.
Mais
avec la DS tout court d'ailleurs.
Mais t'étais même pas né quand il y a eu le premier jeu en 3D, pourquoi tu parles? Mais
si, déconne pas. Putain.
T'avais quel âge en 96?
J'avais 4 ans.
Ah voilà, il vient de parler.
Mais j'étais quand même né. Sinon, mon Mario préféré c'était un 3D, c'était Sunshine. Mais c'est aussi parce que c'est mon premier Mario en fait. J'ai découvert
GameCube. Donc t'as pas connu les vrais
mais,
jeux.
Par contre, le gameplay est parfait. Le jeu est toujours aussi beau. Et la bande son de ce jeu, je pense qu'elle fait partie de mon top 5 des meilleures OST jamais faites. Enfin, je peux écouter n'importe quel morceau et je le retiens et je le rechante, quoi.
Alors, figure-toi que j'ai lu dans un article du Monde que c'est le Mario qui s'est le moins vendu.
Ouais, mais parce que
l'histoire.
Mais parce que les gens n'ont pas
toi qui aimes les chiffres, explique-nous. Merci.
Mais parce que les gens n'ont pas de goût et
putain,
parce
il a lâché le micro.
Non, mais parce que la GameCube, elle s'est pas extrêmement bien vendue et que 64, il s'est vendu parce que c'était 64 et que tous les gens voulaient jouer au nouveau Mario, ce qui est en 3D, c'était la révolution, etc. Et Sunshine, c'est moins bien vendu parce que aussi la GameCube, je pense, c'est moins bien vendu et que oh merde, ça change de nos habitudes. Il a une turbobuse dans le dos. C'était une espèce de.
J'avoue qu'il était spécial là-dessus.
Il y avait un
jetpack. Cracher de la peinture comme ça.
Non, c'était pas de la peinture. Justement, tu devais nettoyer de la peinture avec.
Ah voilà, c'est ça. Il y avait un truc.
La flotte. Mais non, moi, l'ambiance de jeu, enfin, elle est parfaite. Enfin, je trouve juste, j'ai aucun défaut à lui.
Donc, toi à Mario 3, toi à Mario Sunshine.
Ouais.
Nico.
Moi, effectivement, comme disait Raph, Mario 64, moi, il m'a beaucoup plu. Mais je pense que mon meilleur Mario, pour moi, ça restera Super Mario World.
Voilà,
je
l'attendais.
Le jeu, tu l'avais avec la Super NES, tu découvrais un nouveau Mario complètement dingue.
Et
franchement, celui-là, pour le finir à 100%, accroche-toi.
Ouais,
toutes les étoiles, sachant que quand tu finis tout, déjà à l'époque, t'avais ces trucs-là que les développeurs mettaient déjà des petits messages secrets. Quand tu finissais complètement Super Mario World, le dernier stage bonus, t'avais écrit You are a super player en pièce, tu vois.
Ouais, exact.
Et t'étais là, t'étais au max, t'étais oh putain, c'est bon, j'ai tué mon Super Mario.
Ouais, du coup, tu le finissais. Ah non, tu pouvais pas.
Et tu le recommençais, le jeu, et toutes les tortues, les carapaces de tortues, c'était des petites têtes de Mario en fait.
Ouais.
Et tu pouvais tout retaper le jeu avec des couleurs différentes. Et du coup, je me suis retapé un kiff avec ce genre de Mario parce que j'ai découvert une vidéo qui m'a fait mourir de rire. C'est sur Super Mario Kaizo. Avec Ken Bogard et Monsieur Karaté, qui commentent le mec qui fait que de jouer à ce jeu et que crever. Et en fait, les mecs ont commenté ça juste avant de prendre l'avion pour le Japon. Ils étaient complètement fatigués et ils partent en couille sur la vidéo. Mais le jeu, pour ceux qui aiment le challenge, Super Mario Kaizo, ça marche sur n'importe quel émulateur de Super NES. Vous allez en crever. Déjà, regardez la vidéo avec Ken Bogard. C'est à mourir de rire, Super Mario Guac. Mais... c'est vraiment du gros challenge et celui-là, je me suis vraiment beaucoup amusé dessus. Mais tout ça pour dire que ouais, Super Mario World, pour le plus de souvenirs. Et
je reste quand même bloqué, moi, perso, sur les versions de Mario en 2D, tu vois. Mario Bros, c'était déjà fou, déjà, à l'époque, parce que c'était cool. Mario Bros 2, bon, on a un peu moins accroché en Europe.
Lequel, le Lost Level
non,
ou celui qu'on a
eu? Non, pas Lost Level, justement.
Celui qu'on a eu.
L'européen, ouais.
Ouais.
Bah, Lost Level, c'est encore un autre délire. Hein.
Je sais.
Ouais, voilà. Super Mario World, effectivement, là, j'ai fantasmé de ouf. Mais avant, moi, j'ai surkiffé Mario Land.
Ah oui, Mario Land sur Game Boy.
Mario Land sur Game Boy était
déjà... Ouais, la bande son est géniale.
Mais oui, exactement.
Et ça me fait plaisir que tu parles de ça. Vas-y, continue.
Ok, d'accord. même Mario Land 2 était aussi très bon.
Et le 3 avec Wario.
C'était Wario Land.
Wario Land,
ouais,
il
voilà.
Il était bien drôle celui-là aussi.
Voilà.
Ouais.
Et on reste encore dans cet aspect 2D et c'était vraiment cool. Après, ils ont réussi d'en refaire d'autres sur Wii, si mes souvenirs sont bons, avec Mario Paper.
Ouais, Paper Mario.
Ouais, Paper Mario,
ouais,
voilà.
C'était pas mal, ça.
C'était
pas
aussi.
Wii U, d'ailleurs, Mario
non,
Paper
Mario, non, c'était Mario Paper, c'était Wii. Oui.
Ok.
Wii, ouais.
Il y avait les Mario Galaxy aussi. Moi, j'ai adoré un peu dans le concept du genre Mario 64, on a réinventé la 3D. Mario Galaxy, ils ont réinventé encore la 3D avec le fait de bouger de planète en planète dans tous les sens, de courir en bas, au-dessus, à droite. C'était vraiment fou. Ça a redonné encore une dimension un peu plus fun et folle à Mario. Ça, j'avais vraiment kiffé les Mario Galaxy, le 1 et le 2 qui étaient sortis sur Wii. Et du coup, je voulais un peu continuer là-dessus sur le thème des consoles nomades. Parce que moi, le Super Mario Land, je l'ai torché hein, avec la Game Boy.
La console nomade.
Nomade, non. La console de non-nomade, non, je ne l'ai pas connue.
Tu connais pas la nomade?
Non. Et toi?
Bah oui, moi je connais la console. Bah oui, il y a une console qui est sortie à l'époque,
oui,
c'était la nomade. Quelqu'un sait ce que c'est?
Théo, je te... C'est pas un truc de Nokia,
ça? Non, ça c'était le...
La Engage.
Ça, c'est
la
Engage, ouais.
Ça, j'ai connu la Engage.
Nomade?
Ouais.
Ça me dit quelque chose, mais pas...
La Nomade, c'était une console...
Le fabricateur.
C'était... Alors, je vais pas dire n'importe quoi, parce que j'ai un gros doute maintenant dessus. C'était une console Sega, déjà. C'est une console Sega, et qui permettait en fait de jouer à tes jeux Mega Drive en nomade, comme une Game Gear, en fait. Voilà, et ben ça s'appelait la Nomade.
Oui.
Voilà, pour les puristes.
Avec des cartouches de Mega Drive.
Ouais, tu mettais tes cartouches Mega Drive dedans. Je crois que c'était ça, un truc comme ça, un délire comme ça, ouais. J'ai des photos là,
Moi j'avais une Lynx. Je sais pas s'il y en a qui ont.
Bah oui, bien sûr. Oui, oui,
des
oui,
cartouches
oui.
Ultra fines là.
Ouais. Ouais, c'était beau. C'était
mais ouais, le délire, moi, la Game Boy par exemple, j'avais l'espèce de loupe avec les lumières là pour jouer la nuit. Donc t'avais 4 piles dans la grosse Game Boy, plus 2 piles dans la loupe. C'était un budget, hein. Heureusement qu'ils ont sorti les piles rechargeables.
Ouais, mais c'est exactement ça, c'est pas pire. La Game Gear, tu jouais une heure avec tes piles, même Duracell, Extra Life, tout ce que tu veux, XX plus Alpha, machin. Une heure après, t'avais plus de batterie. Hein.
C'était la couleur aussi sur la.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Et puis tu mettais quand même 8 piles, hein.
Ah, mais 6 piles dans la Game Gear.
Non, c'était 8, je crois.
Non, c'était 6.
6 ?
Ah ouais, 6, 3 de chaque côté.
Ah, ok.
Mes parents ont vite acheté le chargeur secteur.
Tu m'étonnes.
Je pense que les parents de tout le monde qui avaient
des piles rechargeables, quoi. Ouais.
Mais c'était la folie quand même, hein, les consoles portables
et pour,
de l'époque.
Pour revenir juste sur Mario,
oui.
Je vous ai pas entendu citer un Mario que moi j'aime bien, je pense que c'est mon deuxième préféré, qui est un Mario en 2D qui est sorti avant la 64. Faut que vous trouviez.
Mario RPG ?
Legend of the Seven Stars ?
Non, Mario RPG, on l'a pas connu en Europe.
Mario Party ?
Je fais pas mon ancien.
Mario World 2, Yoshi Island.
Yoshi Island.
Voilà, exactement.
Ah ouais, oui,
par contre, maintenant, t'as parlé de Mario Party et on va parler de Mario Party. Mario Party. Moi, je suis pas un fan hardcore de Mario, loin de là. Mais un Mario Party, le 4 et le 5, en fait, si vous voulez perdre des amis, il faut jouer à ce jeu.
mais même le premier, hein, si vous voulez vous faire une petite cloque au milieu de la main, à force de tourner le joystick à
64, c'est vraiment, vous jouez à 4 à n'importe qui avec ça et vous vous marrez.
Ah, c'était la folie, hein. Moi, c'était le jeu où, avec les potes, à côté de Bomberman,
Mario Kart,
tu te faisais des après, mais t'en finissais
Nintendo
plus.
Nintendo Power, quoi.
Ah, mais c'est, totalement. Là, ils
potes,
étaient
hein,
tellement hauts.
Et Yoshi's Island, ouais, c'est... Franchement, c'est l'un des plus beaux Mario en 2D. Hein. Il y avait des effets de dingue. C'est sur la fin de vie de la Super Nintendo. Donc c'était vraiment les graphismes 2D 16 bits les plus.
Et il est d'ailleurs sur la Super NES Mini.
Ouais, ouais, j'espère bien.
Non, il est vraiment... De toute façon, là, c'est bon, ils ont sorti un hack.
Ouais, j'ai vu ça.
Tu peux jouer à tout ce que tu veux sur ta NES Mini pour les possédeurs de Super NES Mini.
Oui, que je ne citerai pas parce qu'il est parfois dans cette émission. Et ils vendent des jeux vidéo aussi. Donc. Et donc,
tu parles de qui ?
Je parle de personne.
Ah, Thomas ?
Non, pas lui. Et oui, il y avait des boss qui étaient complètement dingues dans Yoshi's Island. Je ne sais pas si vous vous rappelez du boss qui avait en arrière-plan comme ça, qui avançait en fait vers soi et on devait lui tirer des œufs.
Des œufs dessus. Ouais.
C'était génial. C'était incroyable. Franchement, c'est un des plus beaux Mario, une des plus belles expériences entre moi et Mario de toute ma vie.
Est-ce qu'il y a eu des Mario ratés ?
Ah oui,
bah ouais. Alors 64, bah Sunshine.
Mario 64. Non, 64, non, je suis pas d'accord. Il est pas raté Mario 64.
Non, Sunshine non plus, il faut arrêter les conneries de.
C'est un autre style Sunshine. C'est un autre.
On a le droit de pas aimer, c'est comme pour les Zelda, ceux qui préfèrent les 2D ou les 3D. Enfin, on peut avoir son. Mais dire que l'autre est nul, non, ça, je ne suis pas d'accord.
Ouais, ouais. Mais globalement, en gros.
Tous les Mario,
Mario plaisent à tout le monde. Hein.
Le 3D World, c'est celui qui est sorti sur Wii U. Ouais. Le 3D qui est sorti sur Wii U. Ah, quand ils ont annoncé un Mario 3D. En fait, mais en fait, le truc, c'est que ça a déçu tout le monde. Ils ont dit, on va annoncer un Mario 3D. Ils ont annoncé 3D World, qui était la suite spirituelle de 3D Land sur 3DS. Et oui, on était ouais. Là, ok, ils se foutent de notre gueule.
Ouais, mais c'était pas encore
après,
un jeu raté. Hein.
Il était pas mauvais, mais c'est celui qui est le seul décevant, en fait. Qu'on peut vraiment, que la plupart ont trouvé décevant, quoi. Parce que le reste.
Ouais, globalement, tous les Mario sont bons. Hein.
Ah oui, encore heureux.
Tout le monde y trouve, franchement.
Même dans les jeux d'aventure, enfin, hein, dans les jeux de plateforme. Hein. Mario Speedcross était cool, Dr. Mario était cool.
Les Mario Kart,
Mario Soccer,
ah oui,
bien marrant,
ouais,
ça c'était bien kiffant.
Eh, Mario Sonic aux Jeux Olympiques,
ouais. Ah oui,
Mario Tennis, c'est vrai que c'est bien aussi.
Mario Tennis, c'était marrant.
J'en parle même pas, bon, c'est pas vraiment un Mario, mais.
C'est tout,
Mario Golf aussi,
combat, pour info.
Mario Golf, ça j'ai jamais joué.
C'est pas mal.
Lequel ?
C'était marrant.
Mario Golf.
Bah, Golf,
ah, Mario Golf,
marrant,
ouais,
aussi.
Bah ouais, carrément, ouais.
Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont
d'ailleurs,
fait quand
vous
même.
Aviez vu la news passer du jeu de NES Golf caché dans la Switch ?
Golf, ouais, c'est ça.
Tu peux lancer que le 22 juillet de chaque année.
Il fallait remettre ta console.
Tu tiens les Joy-Con à la verticale, en fait.
Ouais, enfin, ouais, un truc.
C'est
un
hommage
c'était
à Satoru
pas pour
Iwata.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais.
C'était pour rendre hommage.
Parce qu'ils commençaient tous Nintendo Direct en faisant le geste de la main, justement.
Oui.
Enfin, ouais. Demain. Et du coup, c'est
à deux mains, pas qu'une main, alors tendue vers le. Ok.
Ouais, par exemple. Mais oui, voilà, c'est un beau petit hommage. Par contre, dès que tu faisais la mise à jour de la console, le bug ne marchait plus.
En fait, c'est pas un bug. C'est chaque année, le 22 juillet, qui est la date de sa mort.
Ouais.
Tu peux lancer le jeu en faisant ça.
Ah, d'accord.
Et en
okay.
fait, si t'as jamais mis ta console sur le net,
ouais.
tu peux le lancer autant que tu veux en
ah,
changeant
oui,
la date.
Okay.
Mais à partir
voilà,
du moment
ça.
Où elle s'est connectée une fois
une
sur
fois
le net,
net,
tu peux plus
okay,
le lancer comme tu veux.
D'accord.
Mais le 22 juillet de chaque année, on pourra faire le geste et lancer. Jeu de golf de la NES, quoi.
C'est fun.
Ouais.
C'est fun. Ok. Tu voulais encore ajouter quelque chose, Raph ?
Enchanté. Écoute, non, vive Mario. Mario Odyssey va être lourd, je pense. Je vais le tester. Et pourvu que ça dure.
Là, on arrive sur la fin d'année, année 2017.
Ouf. Je vois ta question venir là.
On n'a même pas parlé d'Assassin's Creed d'ailleurs.
Ouais, d'ailleurs, bah, qui est sorti
aujourd'hui. Ni de Wolfenstein. Hein.
Ni de Wolfenstein 2, qui est,
oui.
C'est ça, un retour.
Oui. Non, c'est New Colossus.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, comme quoi Mario a pris effectivement. Bon, ça
ouais,
a été la hype
mais,
sur Mario.
Le truc, c'est que les trois jeux sont bons. Le truc fou, c'est qu'il y avait trois gros jeux qui sortaient le même jour et les trois sont bons.
Ouais.
Alors que d'habitude,
ouais.
il y a toujours. Il y a un vilain petit canard qui fait ouais, en fait, il est pas top. Non, les trois sont très bons. Donc.
Ça sent le lecteur Game Cult par là.
Non, même pas. Alors là, non, vraiment, pour le coup.
En fait, pour le coup, le petit point presse jeu vidéo, il y a en fait c'est bon Game Cult. Généralement, les avis sont soit vraiment bons, soit vraiment mauvais. Enfin, il y a du juste milieu, mais en gros, non. C'est, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Ce qui est important avec Game Cult, c'est que c'est vraiment très rare qu'ils postent deux ou trois tests dans la même semaine et que les trois tests soient bons. En vrai, c'est ça. Et là, il y a eu beaucoup de posts Twitter aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ont mis entre 7 et 8 à 3 jeux bah, qui sont, en l'occurrence, ils ont mis 8 à Assassin's Creed. Ce qui prouve que 8 c'est l'EC, ouais, excuse-moi. 7 à Wolfenstein et le troisième, c'est quoi, du coup ? Et Mario 8 tout court, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ces 3 jeux, si vous êtes fan des univers... qui sont déclinés, voilà, je pense que vous allez bien kiffer.
Ouais, moi j'ai entendu du bien d'Assassin's Creed, là je parlais avec un collègue aujourd'hui, je disais alors Mario, il me fait écoute non je sais pas, il y a Assassin's Creed aussi, donc il y a quand même une hype autour d'Assassin's Creed encore et toujours, hein, malgré le film, mais
et malgré les deux jeux de trop qui étaient Unity et Syndicate.
Ah non, ouais. Syndicate est dur là. Moi, je me suis amusé comme un
fou. J'ai pas joué, j'avais absolument pas envie d'y jouer à ce jeu-là.
C'était
les épisodes déjà de trop avec Black Flag, mais bon, ça.
Non, moi, je suis un gros fan de la licence. Hein. Je les ai vraiment tous faits. Et les Chronicles dont vous parliez la semaine dernière, d'ailleurs.
J'étais pas là. Je ne dirai rien.
Je sais pas qui c'est qui les avait mis sur le tapis, mais c'est des très bons jeux.
Quel jeu?
Assassin's Creed Chronicles, ceux qui sont en 2D, là.
Ah ouais, non, faut arrêter. Pardon.
Moi, je suis un gros fan de la série parce que le scénario, je trouve excellent et toutes les références historiques, c'est vraiment cool. Mais Unity, je suis d'accord, c'est le pire. Mais Syndicate était rigolo et Black Flag, enfin c'est.
Je vais rebondir sur qui n'a rien à voir hein, sur le sujet de tout à l'heure sur Mario. Et on vient de m'envoyer un SMS qui est effectivement très prometteur. J'ai trouvé un Mario complètement HS.
Hôtel Mario.
Plus HS que ça.
Plus HS que ça.
Mario Paint.
Ah non, je suis pas d'accord. Mario Paint, non, c'était rigolo, Mario Paint.
Le jeu avec la tête
et des accessoires, bon, c'était très marketing et tout, etc. Mais ça pouvait. En fait, je sais pas si t'as déjà vu ça sur YouTube, mais il y a des mecs qui se sont amusés à faire des chansons complètement improbables.
Oui, avec le Music avec Maker, Paint,
c'est ça.
Et c'est vraiment dingue. Si vous connaissez Dragon Force, qui est genre un groupe de métal ultra rapide, oui. Le mec, il est arrivé sur Mario Paint avec je sais pas combien. De déclinaisons, très peu de déclinaisons de notes et tout, etc. Il est arrivé à refaire Dragon Force et c'est quand même très marrant. Donc Mario Paint n'est pas un mauvais jeu. Par contre, Hotel Mario, ça c'est un vrai mauvais jeu. Alors on va pas raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, Hotel Mario, c'est pas un jeu Nintendo.
Ben, c'est Nintendo qui avait vendu à Philips, qui avait fait donc la CDI, oui. La licence, le droit d'exploitation pour faire un jeu Mario et trois jeux Zelda. Ça donnait les trois jeux Zelda CDI que tout le monde connaît grâce aux joueurs du grenier. Ah, ouais. Et il y a eu Hotel Mario avec le fameux non. Et non, et qui est ce jeu.
Ah, moi je connaissais le.
Ah oui, et puis quand il y a trop de grippins, c'est grillé. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec Hotel Mario, c'est magique, mais voilà. Merci Philippe.
En tout cas, merci à Aurélien qui nous a écouté pendant l'émission, qui m'a envoyé un SMS. Donc Aurélien qu'on retrouvera la semaine prochaine, qui sera notre invité. Est-ce que je peux vous en dire plus? Oui, non. On va parler avec lui de.
Oui, non. Bah,
ouais,
on va parler
un peu, j'espère. On va parler avec lui donc de manettes. On va parler de stick arcade la semaine prochaine parce qu'il est c'est le big boss, on va dire, de 8bit do France et il sera avec nous la semaine prochaine. Donc yeah. Ça c'est carrément cool. Ooh. Et donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette semaine. Hein. Oui. On va en profiter pour dire bonjour et au revoir à tous les gens qu'on connaît. Merci d'avoir écouté l'émission Work Less Play More. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour 2 heures d'émission, 2 heures d'actu, 2 heures de geekery, bref, tout ce qui se passe sur l'univers JV, ça va se passer la semaine prochaine sur les ondes du 91.9 FM. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, Work Less Play More, travaillez moins, jouez plus, bien évidemment. À bientôt sur RBS.
Bonne soirée, ciao ciao.
Ouais, big up au Wolf Bronx, allez, bisous.